إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. دونك حياكم الله تعالى في هذه السواري دو ميركودي 25 ربيع الأول 1434 دو ليجير correspondant au 6 février 2013 de l'année chrétienne. Nous sommes, inchallah ta'ala, avec le 13e cours, ainsi étaient nos pieux prédécesseurs. Aujourd'hui, on va parler, inchallah ta'ala, de le repentir et la demande de pardon. Le repentir et la demande de pardon. Younes ibn Khabbab, rahimahullah, rapporte. Il a dit, Mujahid, rahimahullah, qui était un frère pour moi, m'a dit, veux-tu que je t'informe à propos de celui qui se repent et respecte les prescriptions divines? Je lui dis, bien sûr. Il a dit, il s'agit de celui qui se souvient de son péché lorsqu'il est seul et demande pardon pour son péché. Je répète, veux-tu que je t'informe à propos de celui qui se repent à fond et respecte les prescriptions divines? Je dis bien sûr. Il a dit, c'est celui qui se souvient de son péché lorsqu'il est seul et demande pardon pour son péché. Ahmed ibn Asim, rahimahullah, a dit, voilà une proie facile, un butin facile. Alors qu'est-ce que tu dois faire? Il a dit, amende ce qui reste de ton existence, c'est-à-dire corrige, améliore, essaye de rendre meilleur ce qui reste de ton existence, et on te pardonnera ce qui en est écoulé. C'est comme ça que ça marche. Il y a le futur et il y a le passé. Non. Toi, de mourir pour toi, c'est quoi? C'est le futur. Essaye de corriger, d'améliorer, de rendre meilleur tes bonnes actions pour le futur. Quant à ton passé, ce qui est écoulé, on te le pardonnera, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala, si tu as fait un repentir sincère. Il ne faut pas être triste, mais si tu as fait un repentir sincère, inshallah ta'ala, tu as commencé une nouvelle vie, une nouvelle page blanche dans ta vie. Talq ibn Habib, rahimahullah, a dit, écrivez temps en temps numéro 1 pour que je sache que je suis connecté. Talq ibn Habib, rahimahullah, a dit, les droits d'Allah sont trop lourds pour être respectés. Et les bienfaits d'Allah sont trop nombreux pour être dénombrés. Mais levez-vous repentant et couchez-vous repentant. Il a dit, les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont trop lourds, et les ni'ma et les bienfaits d'Allah et les grâces sont trop nombreux pour être dénombrés. C'est-à-dire pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Mais voilà une solution. Levez-vous repentant et Couchez-vous repentant. Quand tu te lèves le matin, tu fais les doigts et dans ton cœur, yani, essaie d'avoir l'intention que tu t'es repenti pour ce qui est passé et que tu as, inshallah ta'ala, dans ton cœur l'intention, yani, d'améliorer les choses. Et la même chose quand tu vas dormir le soir, dors, inshallah ta'ala, avec l'intention d'être repentant. Juste une petite remarque ici. Lorsque Talq ibn Habib rahimahullah a dit les droits d'Allah sont trop lourds pour être respectés. Non. De toute façon, cette phrase, yani, ça peut être sujet à ambiguïté. Non. C'est pour ça que quelqu'un peut dire donc les droits d'Allah ta'ala sont trop lourds pour être respectés. Donc si je respecte pas, yani, c'est pas de ma faute. Et nous on dit quoi? La yukallifu Allah nafsan illa wus'aha. Que Allah subhanahu wa ta'ala t'a prescrit que ce que tu peux faire, que Allah ta'ala qui t'a créé, tout ce qu'il a prescrit, il l'a prescrit en sachant que tu peux le faire. Et que c'est impossible que Allah subhanahu wa ta'ala te demande une chose que tu ne puisses pas faire. Naam. Et qu'ensuite, yawm al-qiyama, yani, il va te quoi? Il va te châtier d'une chose que qui est plus fort que toi. Ça, c'est pas possible et ça n'existe pas en islam. C'est pas possible en islam. Ja'far rahimahullah rapporte. On demanda à Saïd ibn Jubayr, le grand tabi'i rahimahullah, quel est le plus dévot des hommes? Quel est le plus pieux des hommes? Le plus dévot des hommes? Il répondit, celui qui a commis des péchés, le plus dévot des hommes, c'est celui qui a commis des péchés et qui, à chaque fois qu'il se remémore ses péchés, il méprise ses œuvres. Naam. Le plus dévot des hommes, c'est celui qui, d'un côté, il a commis des péchés, mais il y a une condition. À chaque fois qu'il se remémore ses péchés, il méprise ses œuvres. Pourquoi on a dit comme ça? Parce que des fois, on peut avoir commis des péchés, mais quand on se remémore les péchés, on pense à ces péchés, on ne les méprise pas. On ne les méprise pas. Mais des fois, peut-être que même la personne peut sentir et amener un certain plaisir, une certaine tendresse envers le passé. Quand c'est comme ça, c'est le shaitan. C'est le shaitan. Sinon, la personne doit regretter quoi? Doit regretter ses péchés. Normalement, la personne, à chaque fois qu'elle pense à ses péchés, elle sent, yani, comme un chagrin qui descend dans son cœur. Et non pas le plaisir. Car si elle sent le plaisir, ça veut dire que, yani, elle voudrait continuer dans ce chemin. Elle voudrait, donc, ça veut dire qu'elle n'a pas fait une tawbah, yani, sincère, bi'idhnillahi ta'ala. Mais ma'alish, la personne des fois fait la tawbah sincère, mais elle voit des choses ou entend des choses qui peuvent lui rappeler un peu le passé et même lui donner peut-être une certaine tendresse ou je ne sais pas quoi. Dans ce cas, elle doit vite se ressaisir et yani dire au double mishtan rajim et demander à Allah subhanahu wa ta'ala de quoi? De lui pardonner. C'est pour cela que la personne qui avait par exemple qui commettait beaucoup de péchés, par exemple avant la Tawbah ou bien avant l'islam ou bien, c'est très important pour elle de quitter et de n'avoir plus de relations avec les anciens amis, anciens et anciennes pour les sœurs. Naam. Parce que si on garde la relation avec les gens avec lesquels on faisait des péchés, yani, ils vont quoi, la moindre des choses, il va te rappeler l'ambiance du passé. Il va te rappeler les péchés, il va te rappeler ce que vous avez fait. Même s'il ne te rappelle pas en te disant on a fait ceci, cela, mais toi tu te rappelles. Tu vas dire avec cette personne, on est allé à tel endroit, on a fait cette chose. Mais si tu quittes ces personnes, sauf bien sûr si on les rencontre pour leur parler de la da'wah, etc. Même sinon, quand on les quitte, alhamdoulilah, ça nous aide à oublier notre mauvais passé et nos péchés. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Abu al-Malih rahimahullah rapporte. Il a dit, j'ai entendu Maymoun ibn Mahran rahimahullah dire, Il n'y a aucun bien en ce bas monde. Il n'y a aucun bien en ce bas monde, sauf pour deux hommes. Celui qui se repent et celui qui œuvre pour s'élever en degré. Je répète, il n'y a aucun bien en ce bas monde, sauf pour deux personnes. Sauf pour la personne qui se repent et la personne qui œuvre et fait des efforts pour s'élever en degré. Aoun ibn Abdillah, rahimahullah, a dit: asseyez-vous avec ceux qui se repentent, car ils ont les cœurs les plus sensibles. Asseyez-vous avec ceux qui se repentent et ceux qui se sont repentis. Naam. Pourquoi? Car ils ont les cœurs les plus sensibles. Ils ont les cœurs les plus sensibles. Naam. En fait, quelqu'un qui se repent a toujours un cœur sensible. Et le contraire est vrai. Quelqu'un qui ne se ressent pas, qui ne se repent pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un cœur dur comme la pierre. Tu lui parles, tu lui dis ça c'est haram, ça mène au feu, ça attire la colère d'Allah, ça, ceci, et il ne se repent pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a un cœur dur comme la pierre ou plus. Mais celui qui se repent, à chaque fois qu'il fait un péché, il se repent, ou bien quand on lui parle, il se repent, ça veut dire qu'il a vraiment un cœur sensible, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Aoun ibn Abdil Utba, rahimahullah, a dit, le fait que le serviteur se préoccupe de son péché l'amène à le délaisser. Le fait qu'il le regrette, il regrette son péché, c'est la porte du repentir. Et le serviteur ne cesse de se préoccuper du péché qui le touche jusqu'à ce que cela lui soit plus profitable que certaines de ses bonnes actions. Subhanallah al-Azim. Je répète, le fait que le serviteur se préoccupe de son péché, ça l'amène à le délaisser. Naam. Celui qui ne cherche pas à comprendre pour ses péchés, jamais il n'arrêtera de faire les péchés. Mais celui qui pense à ses péchés et qui dit c'est grave ce que je fais, naam, j'encours la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que c'est ça, quand est-ce que je fais la tauba, ceci, cela, celui-là, ça va l'amener, bi'idhnillah ta'ala, à délaisser les péchés. Il a dit, et le fait qu'il regrette son péché, c'est déjà la porte du repentir. Le fait que quelqu'un regrette déjà, même s'il ne s'est pas encore repenti, il fait les péchés, mais il regrette. Inch'Allah ta'ala, il n'est pas loin. Il n'est pas loin de la porte du repentir. Et le serviteur ne cesse de se préoccuper de son péché, ou bien du péché qui le touche, jusqu'à ce que ça lui soit profitable, plus profitable que certaines de ses bonnes actions. Ibn al-Qayyim rahimahullah et certains savants aussi, ils disent, en posant comme ça, comme une devinette, ils disent: quel est le péché qui fait rentrer au paradis et quelle est la bonne action ou bien la bonne œuvre qui fait rentrer en enfer? Quel est quoi? Quel est le péché qui fait rentrer au paradis et la bonne action qui fait rentrer en enfer? Ici, quand il a dit que le serviteur ne cesse de se préoccuper du péché qui le touche jusqu'à ce que ça lui soit plus profitable que certaines de ses bonnes actions. Des fois, se préoccuper de son péché, des fois, c'est plus profitable que certaines des bonnes actions. Il cite le cas de Adam, notre père, alayhi salam. Comme dit Ibn Qayyim, il a dit que notre père, Adam, alayhi salam, et même Hawa, après la Touba, sont devenus mieux que leur état avant la Touba. Naam. Avant la Touba, on est dans le paradis. Ils étaient dans le paradis. Naam, on a toutes les délices, tous les etc. Donc, naam, on n'a pas le cœur, comme vous savez. Yani, Yani on est un peu, si je puis dire, si je puis un peu distrait, un peu feinte. Ensuite, quand quelqu'un fait la faute, ensuite, on lui fait des reproches et des remontrances. Et des reproches de la part de qui? D'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Adam, pourquoi tu as fait ça? Je t'avais dit de ne pas manger. Ensuite, la punition de d'être dénudé. Ensuite, la punition d'être sorti du paradis. Et bien sûr, la tauba après cela, sûrement que Ali Salam, après Nam, après la tauba, était beaucoup mieux avant qu'avant le péché et la tauba. Comme ça dit Ibn al-Qayyim rahimahullah. Si on revenait à la genre de devinette, la genre de devinette qui dit quel est le péché qui fait rentrer au paradis et quelle est la bonne action qui fait rentrer en enfer. On va dire, Inch'Allah ta'ala, le péché. Ou alors, on commence le contraire si vous voulez. Ou alors, maalesh, le péché qui fait rentrer au paradis, c'est quand une personne fait un péché, ensuite, masha'Allah, elle fait une tawbah nasuha, masha'Allah. Elle fait un repentir sincère, au point où quoi? Au point que, alhamdoulilah, maintenant elle se ressaisit et elle commence à faire des œuvres, masha'Allah, les bonnes œuvres, et la prière de la nuit, et le jeûne. Jeudi, lundi, 13, 14, 15, jeudi, lundi, et l'aumône, et ceci, et cela, on va dire, subhanallah, l'adim. Tout ça, c'est à cause de quoi? À cause du péché. Elle a fait peut-être un grand. Ensuite, elle a regretté vraiment, et c'est la grande tauba, la tauba sincère, etc. Et de cette tauba a découlé quoi? A découlé toutes les bonnes œuvres, naam, qui ont été la cause de la faire rentrer au paradis. Donc celle-là, elle va rentrer au paradis à cause de quoi? À cause du péché. À cause du péché qu'elle a fait. Entre parenthèses, bien sûr, et ce qui a découlé de ce péché. Et quelle est la bonne action, et la bonne œuvre qui fait rentrer en enfer? C'est que le fait, par exemple, qu'une personne fasse une bonne œuvre, par exemple, supposons qu'elle a 100 000 euros pour la mosquée, pour construire une. Ensuite, il va se passer deux choses. La première, il va lui rentrer dans son cœur une chose qu'on appelle en arabe le ujb. Le ujb. Qu'on va dire en français à peu près l'autosatisfaction. Elle ne va pas s'arrêter de parler à elle-même. À elle-même, et de dire je suis masha'Allah. Voilà ce que j'ai fait. J'ai donné 10 000 euros. Qui est mieux que moi? Qui peut donner cette somme de nos jours? Qui ceci? Qui cela? J'ai peut-être la foi de Abu Bakr Siddiq et de Omar. Naam. Et elle commence à se dire ça. Ça veut dire l'ujb, l'autosatisfaction est rentrée en elle, et une chose pareille, ça te fait descendre tout ce que tu as fait. Ou alors, la deuxième faute, la pire, qu'elle fasse le rappel, qu'elle dise aux gens, ou alors aux personnes qu'elle a données à la mosquée, si c'était pas moi, vous n'auriez pas prié. Si c'était pas moi, il n'y aurait pas eu cette mosquée. Si c'était pas moi, ceci, cela, a'oudou billah, Allah qui dans le Coran, ya ayyuhal ladhina amanu, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Oh vous les croyants, n'annulez pas vos aumônes, sadaqatikum, bil man, en faisant le rappel, wal adha, et en faisant tort du mal aux gens. Tu dis à une personne comme ça, tu donnes à une personne quelque chose, ensuite tu lui dis je t'ai donné, tu as fait deux choses, le rappel, et tu lui as fait mal à la personne. Non, tu lui as fait mal quand tu lui dis je t'ai donné. Donc, donner 10 000 euros pour la mosquée, c'est une bonne œuvre, ça. Mais elle fait rentrer où? Au paradis ou là en enfer? Elle fait rentrer en enfer. Pourquoi? Car tu as vu et tu as entendu ce qui a découlé, non, de cet aumône. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver. Justement, Haïdik, ça vient ici. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, un homme peut commettre un péché, ne pas l'oublier et ne pas cesser d'en craindre les conséquences jusqu'à paradis. Subhanallah. Un homme, c'est-à-dire une personne, peut commettre un péché, ensuite ne pas l'oublier, avoir toujours des remords dans le cœur et ne pas cesser d'en craindre les conséquences. Ne pas cesser d'avoir peur et d'en craindre les conséquences demain quand elle va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit jusqu'à entrer au paradis. Car chaque fois que tu te rappelles ton péché et que tu as peur et que tu en craignes les conséquences, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train de faire des choses, masha'Allah, avec quoi? Avec ton cœur. Car comme on fait les bonnes œuvres avec le corps, on fait aussi les bonnes œuvres avec le cœur. Ici, ton cœur, qu'est-ce qu'il fait? Du matin au soir, il a peur. Il a peur de rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala avec ce que tu as fait comme péché et que peut-être Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté de repentir. Et peut-être ceci, peut-être cela, peut-être ceci, peut-être cela. Tout cela, na'am, c'est une preuve de la sincérité. C'est une preuve, inshallah ta'ala, que, yani, inshallah, la finalité, ce sera le paradis. Contrairement à celui qui fait des péchés et s'en fout. Na'am. Et tu lui dis, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Tu regardes ce que tu as fait. Il te dit, qui ne fait pas ça de nos jours? Qui de nos jours ne boit pas l'alcool? Qui de nos jours ne fréquente pas? Qui de nos jours ne fume pas, je ne sais pas, la drogue? Qui ceci, qui cela? Donc celui-là, na'am, il n'a aucun remords, ni il ne craint les conséquences. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous préserver de ce genre de gens. Bakr ibn Abdullah rahimahullah a dit, vous multipliez les péchés, alors multipliez les demandes de pardon. Car lorsque l'homme commet un péché, puis voit à ses côtés une demande de pardon, il se réjouit de sa position. Naam. Malik ibn Maroul, rahimahullah, rapporte. Il a dit, j'ai entendu Abu Yahya dire, je me suis plaint à Mujahid, rahimahullah, mes péchés. Je me suis plaint à Mujahid, rahimahullah, de mes péchés. Et il me répondit, quel usage fais-tu de la gomme? Quel usage fais-tu de la gomme? C'est-à-dire, la demande pardon. Alhamdoulilah, nous a donné, tu as une feuille blanche toi, et tu commences à écrire dessus avec un stylo des choses qui sont pas bien, des gros mots, je ne sais pas quoi. Alhamdoulilah qu'Allah Ta'ala t'a donné une gomme. Si tu n'avais pas donné la gomme, comment tu vas faire? Mais Allah t'a donné la gomme. La gomme, c'est quoi? Le repentir, regretter, repentir, décider de ne plus faire cette chose bi'idhna subhanahu wa ta'ala. Regardez la ni'ma qu'il y a. Ça, c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, par exemple, autrefois, par exemple, quand quelqu'un avait, par exemple, de la souillure sur son vêtement, il fallait qu'il coupe, non, il déchire le morceau où il y a quoi? Où il y a la souillure. Non, tu as un pantalon. Sur le genou, il y a un morceau de souillure, ou la d'urine, tu dois couper avec le ciseau, ou là une lame, là, tu coupes, et tu laisses comme ça un grand trou, pour enlever quoi? Pour enlever l'urine. Pour nous, alhamdoulilah, subhanallah, c'est une ni'ma. Tu vas juste laver, l'endroit, pas tout le pantalon, l'endroit seulement où il y a cette souillure. Et alhamdoulilah, ça s'efface. Nous, quand on fait des péchés, on a une gomme, alhamdoulilah. Et le prophète, sallam, a dit dans le hadith authentique que, yani, repentir détruit précédé. Détruit. Vous savez ce que veut dire détruit? Ça veut dire que s'il y avait une maison, ensuite on la démolit, tu reviens, tu ne trouves plus de maison. Tu trouves seulement la place. C'était là qu'était construite la maison, elle n'existe plus. C'est comme ça, détruit. Quand quelqu'un fait la tauba, il n'y a plus de péché, ils sont partis. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je parle des péchés entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Quant aux péchés entre nous et les êtres humains, vous savez que il y a condition d'aller demander pardon à la personne et de lui rendre ce qu'on lui a appris. Et de lui rendre ce qu'on lui a appris. Abu al-Manhar a dit, le serviteur n'a pas meilleur voisin dans sa tombe. Demande de pardon abondante. Le serviteur n'a pas meilleur voisin dans sa tombe. Demande de pardon abondante. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, des fois, il faisait jusqu'à 100 fois par jour, il demandait à Allah subhanahu wa ta'ala pardon. Non, astaghfirullah wa atubu ilayh. Des fois, combien qu'il disait ça par jour? Jusqu'à 100 fois. Et quand je dis qu'il disait ça, ce n'est pas comme nous. Premièrement, nous, on ne le dit pas 100 fois. Et deuxièmement, nous, des fois, on le dit, le cœur distrait. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Des fois, tu sais même pas ce que tu es en train de dire. Peut-être la personne dit astaghfirullah et en même temps, elle est en train de voir un feuilleton à la télé. Ou bien voir un match de football. Elle dit astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tout ça, bien sûr, ça compte pas. Même que des savants, pour dire une phrase pareille, en la disant comme ça d'une façon distraite, tu as des péchés. Car tu es en train de te moquer. Tu es en train de te moquer. Tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala de te pardonner, mais tu... Yani, ton cœur n'est pas avec toi. C'est comme si tu disais n'importe quoi. Non. Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, les hommes sont de trois catégories. Les hommes sont de trois catégories. Un homme, premièrement, un homme qui a une bonne action et on espère la récompense. D'inshallah ta'ala, c'est mashallah. Deuxièmement, un homme qui a commis un péché, puis s'en est repenti et espère le pardon. Et un troisième homme, grand menteur, qui persiste dans les péchés et dit qu'il est saint. Ensuite, il a dit, celui qui connaît de son âme la malfaisance doit donner prépondérance à la crainte sur l'espoir. Donc, je répète, il y a trois genres de personnes. Le meilleur, c'est qui? C'est celui qui a fait une bonne action et espère la récompense. Ensuite, le deuxième, celui qui a commis un péché, mais il s'en est repenti et demande pardon. Et le troisième, c'est qui? C'est le grand menteur. Celui qui persiste dans les péchés et dit qu'il espère le pardon. Ou alors, pire, je dis, ou alors, celui qui persiste dans les péchés et dit, j'attends que Allah Ta'ala me guide. Il ne m'a pas encore guidé. Pourquoi tu n'as pas commencé la prière? Allah Yahdina. Que Allah Ta'ala nous guide. Pourquoi tu bois toujours de l'alcool? Allah Yahdina. Que Allah Ta'ala nous guide. Comment Allah subhanahu wa ta'ala ne t'a pas guidé? Il ne t'a pas donné la raison? Si tu étais un fou, tu serais accusé. Mais il t'a donné une raison. Et ne t'a-t-il pas montré dans le Coran et la Sunna que l'alcool c'est haram et qu'il y a 10 personnes dans l'alcool qui ont la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala? Allah ta'ala ne l'a-t-il pas dit dans le Coran? وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. Il a dit les Thamoud, c'est les grands pécheurs comme Pharaon et la clique, les grands ennemis qui étaient ennemis d'Allah. Il a dit, فَهَدَيْنَاهُمْ. Il a dit, je les ai guidés dans le sens où je leur ai montré c'est quoi le haram, je leur ai donné la raison, je leur ai envoyé des messagers, des livres, etc. Mais, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. Mais ils ont choisi quoi? Ils ont choisi yani, l'autre chemin sur le fait d'être guidé. Ils n'ont pas choisi. Yani, il y a deux chemins. Je leur dis, si vous choisissez ce chemin, vous serez guidé. Si vous choisissez ce chemin, vous serez égaré. Ils choisissent l'autre. Donc, yani, c'est de leur faute et Allah subhanahu wa ta'ala, yani, alhamdoulilah, a établi sur eux la preuve. On va terminer. Hassan a dit, ô fils d'Adam, Hassan Basri a dit, rahimallah, ô fils d'Adam, délaisser le péché, c'est plus facile que d'essayer de t'en repentir. Et qu'est-ce qui te met à l'abri de commettre un jeûne dont la porte du repentir est fermée sans que tu ne t'en rendes compte? Naam. Délaisser un péché, c'est plus facile que d'essayer de s'en repentir. Naam. Quand on ne fait pas un péché, c'est beaucoup plus facile que de faire un péché et ensuite d'essayer de s'en éloigner, de se repentir. C'est comme quelqu'un, a'oudou billah, qui va commencer à se piquer avec l'héroïne ou je ne sais pas quoi, a'oudou billah. Naam. Ensuite, ça va être très difficile pour qu'il arrête et il se repente. Mais si dès le début, il n'en goûte pas, ils s'éloignent de la clique et des gens qui font cette chose. Ils ne s'assoient pas avec eux pour qu'ils ne soient pas tentés. Alhamdoulilah, ça lui sera de ne pas péché. C'est pour ça qu'il a dit, qu'est-ce qui te met à l'abri? Quelle est la preuve que tu peux commettre un péché majeur et que la porte du repentir est toujours ouverte? Qui t'a dit ça? Peut-être qu'en commettant ce péché, Allah t'a fermé la porte du repentir. Hein? Et Abu Hashim al-Rumani, rahimahullah, il a dit, Zadan a dit, j'étais jeune. J'avais une belle voix et je frappais bien du tambour. J'étais jeune. J'avais une belle voix et je frappais bien du tambour. J'étais avec des amis. Nous avions un jus de fruits fermenté. Et je chantais pour eux. Ibn Mas'ud, ça. Pas ça. Entra la chambre où nous étions. Frappa le récipient. Le renversa. Brisa le tambour, puis dit, ô jeune, si ta belle voix servait au Coran, tu serais ceci et cela. Ô jeune, si ta belle voix servait au Coran, tu serais ceci et cela. Puis il partit. Je demandai à mes compagnons, qui est-ce? Ils me répondirent, Ibn Mas'ud, c'est-à-dire le compagnon du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'eus alors envie de me repentir. Je me suis mis à courir en pleurant et j'ai attrapé son vêtement, tourna vers moi, me prit dans ses bras, pleura et me dit, bienvenue à celui que Allah Ta'ala a aimé. Assieds-toi. Il mit sa main dans sa poche et en sortit une date qu'il me donna. Inch'Allah Ta'ala maintenant à l'invocation. Passez Inch'Allah maintenant à l'invocation. Une seconde Inch'Allah Ta'ala que je me prépare. Une seconde que je me prépare avec le programme. Une seconde. Taïb. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim wa salatu wa salam ala ashraf al-mursalin. On va parler un peu, inchallah, de l'invocation. La doua bi-idhlillahi subhanahu wa ta'ala. Abu Darda, radiyallahu ta'ala anhu, a dit, celui qui frappe souvent à la porte est plus à même de se voir ouvrir. Et celui qui multiplie les invocations est plus à même de se voir exaucer. Donc celui qui frappe à la porte souvent, il est plus à même de se voir ouvrir. On va lui ouvrir la porte. Et celui qui multiplie les invocations est plus à même, inchallah ta'ala, de se voir exaucer. Donc c'est pour exhorter les gens, inchallah ta'ala, à quoi? À ce qu'ils fassent beaucoup d'invocations. Et que la personne, comme vous savez dans le hadith authentique, que la personne est exaucée dans ses doigts, inshallah ta'ala, tant qu'elle ne dise pas, j'ai invoqué, et Allah ne m'a pas exaucé. Si elle dit comme ça, là, elle est bloquée. Elle ne sera plus, exaucée. Mais, elle invoque, et tawakkul Allah. Quand Allah ta'ala voudra, il m'exaucera. Ensuite, vous savez que ce n'est pas obligé qu'il t'exauce. Ce n'est pas obligé. C'est une grâce de lui. Ensuite, ce n'est pas obligé aussi que quand tu l'invoques, il va t'exaucer. Mais des fois, il va te laisser ça pour Yom Al-Qiyama. Car il sait que s'il va t'exaucer, c'est une chose très mauvaise que tu as demandé. Alors que toi, tu crois que c'est une bonne chose. Quand tu faisais des doigts jour et nuit pour que tu achètes telle voiture, c'est une très mauvaise affaire pour toi. Mais toi, tu ne sais pas. Tu dis comment, c'est la meilleure voiture, elle est sport, c'est la dernière, c'est ceci, c'est 20 cylindres, je ne sais pas quoi. Mais Allah Ta'ala sait que tu vas faire un accident grave qui va te porter sur le chariot. On va te couper, t'amputer tes jambes. Donc il a dit, je ne lui exauce pas et je lui donne Yom al-Qiyamah, c'est mieux. Ou alors, je vais refouler de lui quoi? Yani, la même quantité, disons, de mauvaises choses et de malheurs. Je vais refouler de lui plutôt que de l'exaucer, car l'exaucer, ce n'est pas un bien pour lui. Mais bien sûr, la personne ne sait pas. La personne, elle ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Moi, une chose me plaît, je me dis, il faut que j'ai cette chose. Non, je dois faire des mains et des pieds pour l'avoir. Pourquoi? Je ne sais pas, je ne connais pas, mais... Yani... je ne connais pas, yani, comment on dit, mes intérêts. Même mes intérêts personnels, je ne les connais pas. Non. Al-Muhim. Aïcha, radiyallahu ta'ala anha, notre mère, a dit, demandez à Allah la facilité en toutes choses, même pour lasser vos sandales. Car si Allah Ta'ala ne l'avait pas facilité, cela n'aurait pas été facile. Naam. Quand tu vas lasser tes sandales, si Allah Ta'ala ne veut pas, ou la veut te compliquer les choses, tu peux rester une demi-heure, tu n'arrives pas. Elle a dit, en toute chose, demande à Allah Subhanahu wa Jal de te faciliter. Naam. Car si Allah Ta'ala ne te facilite pas, naam, ça deviendra quoi? Compliqué et difficile. Il faut une petite chose, tu restes peut-être une heure à la faire. Alors que, si tu avais le cœur vivant et avais demandé à Allah Ta'ala de l'aide, peut-être que, en quelques secondes ou minutes, tu aurais fait cette chose. Naam. Ibn Mas'ud, le compagnon, le grand, radiyallahu ta'ala, nous a dit, Allah n'accepte que l'invocation sincère. Et, Il n'écoute que ce qui émane du cœur de celui qui l'invoque. Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte que l'invocation sincère. Et l'invocation qui émane du cœur de celui qui l'invoque. C'est-à-dire que celui qui fait l'invocation, d'après Abdullah ibn Mas'ud, il doit avoir deux conditions au moins. La première, qu'il soit vraiment sincère dans cette invocation. C'est pas il invoque comme ça parce que il a vu les gens, par exemple, invoquer, il a commencé à invoquer. Non, il est sincère dans cette invocation. Il veut cette chose. Non. Il est sincère. Et deuxièmement, il ne le fait pas avec quoi? Avec distraction. Il est distrait. Non. Quelqu'un qui est distrait, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas de lui dédouaner. Quand vous parlez avec quelqu'un, non. Plus où on demande une chose à quelqu'un, plus ce quelqu'un sent de nous, qu'on parle avec une chaleur dans le cœur, naam, et qu'on veut la chose, donc il est plus sujet à nous la donner. Ça c'est une personne seulement. Mais si une personne, naam, tu lui demandes comme ça des choses en ayant un cœur distrait, à fond, naam, tu parles comme ça, tu sais pas ce que tu dis, naam, il va pas accepter de toi. Il va pas te donner la chose. Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui demandes la chose, il faudrait que ton cœur soit présent. Ton cœur soit présent. D'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, invoquez Allah azza wa jal en étant sûr d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation d'un serviteur au cœur distrait. Au cœur distrait. Naam. Hadith sahih. Dans Silsila Sahiha. Qala alayhi sallallahu alayhi wa sallam, Oud'u Allah. Bon, c'est écrit un peu à l'envers, on ne lit pas ce qu'il y a en rouge. Oud'u Allah ta'ala wa antum muqinuna bil ijaba. Wa'alamu anna Allah laystajibu du'a'an min qalbin ghafil. Invoquez Allah en étant sûr d'être exaucé. Et sachez qu'Allah n'exauce pas l'invocation, la doua d'un serviteur au cœur distrait. Toi, tu es en train de voir un film et en même temps, tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala le paradis, je ne sais pas quoi, et khushu, et ceci, cela. C'est pas possible. Ton cœur n'est pas avec toi, il est avec le film, avec le match. Il faudrait que ton cœur soit avec Allah subhanahu wa ta'ala pour pouvoir lui demander. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a dans les cœurs. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ruser avec Allah. Allah Ta'ala sait de quel côté ton cœur est en train de pencher quand tu es en train de faire la doua. S'il sait que c'est pas vers lui, il n'exauce pas. Il n'exauce pas. Naam. طيب الدرداء الدرداء الصحابية رضي الله تعالى عنها a dit la crainte dans le cœur du fils d'Adam est semblable à la chaleur d'une brûlure. N'en ressent-il pas des frissons? On répondit oui. Elle dit, alors, lorsque vous ressentez cela, invoquez. Car l'invocation est exaucée en ce moment. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, la crainte dans le cœur du fils d'Adam est semblable à la chaleur d'une brûlure. Quand on a une brûlure, on ne ressent pas des frissons? Elle a dit si. Elle a dit, alors, lorsque vous ressentez cela, tu ressens comme une brûlure dans ton cœur, comme une chaleur dans ton cœur, comme un frisson dans ton cœur, comme un peu ton cœur qui tremble. Naam. C'est là que tu dois invoquer. C'est là que, non seulement tu dois invoquer, mais que l'invocation sera exaucée bi'idhnillahi ta'ala. Wahb ibn Munabbih, rahimahullah, a dit que celui qui aime qu'Allah ta'ala exauce son invocation ne consomme que ce qui est bon et licite. Si tu veux que Allah subhanahu wa ta'ala exauce ton invocation, alors fais des efforts pour ne consommer que ce qui est bon et licite. Et tout le monde connaît le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a dit que le voyageur revenait du voyage, il a dit les cheveux comme ça ébouriffés, plein de terre, plein de nam. Il a dit que il lève les mains vers le ciel, Rabbi atteigne, Rabbi donne-moi ceci, cela. Il a dit alors que yani ses habits sont de haram, il a dit yani son manger il est de haram et sa boisson il est de haram. Il a dit comment qu'il sera exaucé. C'est-à-dire, si quelqu'un veut être exaucé, alors qu'il s'éloigne du haram, dans son manger, et dans ses habits. Il ne s'habille qu'avec des vêtements achetés, avec de l'argent halal. Ensuite, les vêtements doivent être aussi, yani, adéquats, avec quoi? Avec la charia. Elle ne va pas, yani, faire des doigts alors qu'elle va sortir avec une robe, yani qui montre ses pieds, etc. Celle-là, elle est habillée en haram. Et ensuite, elle va faire des doigts. Ensuite, on ne va pas manger du haram ou alors voler de l'argent. Et ensuite, aller manger, ensuite faire des doigts. Car le prophète Islam a dit dans un hadith authentique, il a dit tout haram qui rentre dans le cœur, dans le corps, tout haram qui rentre dans le ventre, il a dit, yani, d'abord, il doit passer par l'enfer. Non. Il a dit, tout ce qui, disons, c'est pas né, tout ce qui vient du... Attendez, comment qu'on va dire le corps, comment qu'on dit du corps, il grandit ou je ne sais pas quoi. Le corps. Le prophète Islam a dit que tout ce qui, yani, si je puis dire, agrandit le corps, c'est-à-dire le rond, par exemple, obèse, toute la viande, la chair, qui vient au corps, de haram, doit fondre en enfer d'abord. Des fois, quelqu'un avec de l'argent haram, il va manger beaucoup dans les restos. Manger, enfin, tout le temps de la viande, des poissons, ceci, cela. Son ventre, qu'est-ce qui va lui arriver? Il va grandir et grossir. Il va avoir un ventre gros. Il va être obèse. Quand il va mourir, il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ce ventre est venu de haram. Lui, par exemple, je donne un exemple. Par exemple, son ventre, par exemple, pesait 1 kilo. C'est un exemple. Maintenant, il pèse par exemple 3 kilos sans ventre. Donc il y a 2 kilos en plus. Ces 2 kilos, comment les enlever? Il va rentrer en enfer pour les fondre dans le feu. Dans le feu, jusqu'à ce que ça fond, comme la bougie qui fond. Ensuite, quand il sera seulement 1 kilo, il va ressortir. Bien sûr, s'il ne sera pas, il y en est puni pour d'autres choses. Taous, rahimahullah, a dit, la sincérité suffit à l'invocation comme le sel suffit à la nourriture. Comme le sel suffit à la nourriture. Ibn Uyayna, rahimahullah. Ibn Uyayna, rahimahullah, a dit, ne délaissez jamais l'invocation. Ne délaissez jamais l'invocation. Et que ce que vous connaissez de vous-même, et que ce que vous connaissez de vous-même ne vous en empêche pas. Tu connais de toi que tu as fait des péchés, des grands péchés, etc. Ça ne doit pas t'empêcher de faire des invocations. Pourquoi? Car Allah Ta'ala a exaucé Iblis, a exaucé Shaitan, a exaucé le démon, alors qu'il était la pire des créatures. Alors qu'il était la pire des créatures. Quand il a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Qala, anzirni ila yawmi yub'athun. On lit d'abord en noir, ensuite en rouge. Qala, anzirni ila yawmi yub'athun. C'est-à-dire, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités. C'est Satan qui dit, a dit à Allah. Il lui a dit, accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscité. Allah subhanahu wa ta'ala a répondu, Qala, innaka min al-mundarin. Innaka min al-mundarin. Allah dit, tu es de ceux à qui délai est accordé. Donc si Allah ta'ala a exaucé la doua du shaitan, son plus grand ennemi, son l'ennemi d'Allah, de ses messagers et des croyants. Et lui a demandé une chose, il a fait une doua, Allah Ta'ala a accepté. Il lui a dit, tu es de ceux à qui je vais accorder un délai, j'accorde un délai. Donc qu'en est-il pour quelqu'un qui est croyant et qui aime Allah subhanahu wa ta'ala et qui fait des invocations? Et qui fait des invocations. C'est pour cela que il ne faut jamais, comme on dit, se lasser, ou bien dégoûter, ou bien dire, classe, moi j'ai fait des doigts, ça il ne m'a pas répondu, j'arrête. Non, dès que tu dis cette phrase, tu ne seras jamais exaucé. Tu ne seras jamais exaucé. Si tu veux arrêter de ne plus faire de doigts dans la chose que tu demandais, c'est pas obligé que tu en fasses. Arrête. Mais ne dis pas la phrase. Ne dis pas, Allah Ta'ala ne veut pas m'exaucer. Ne veut pas m'exaucer. Non. Taïb, qu'est-ce qu'il a dit ici? Thabit, rahimahullah, la rapporte. Nous nous asseyons avec Abu Othman al-Nahdi, qui nous enseignait et invoquait. Puis il disait, nous avons été exaucés, on nous a pardonné. Puis il se taisait un court instant et ajoutait, si nous étions sincères. Si nous étions sincères. Abu Hazim rahimallah a dit, je crains plus d'être privé d'invocation que d'être privé d'exaucement. Écoutez bien, je crains plus d'être privé d'invocation plutôt que d'être privé d'exaucement. Et c'est ce que disait beaucoup Omar Mukhtab radiallahu ta'ala anhu. Il a dit, moi, Omar disait radiallahu ta'ala anhu, je ne porte pas le fardeau non, de yani, l'exaucement. Mais plutôt, je porte le fardeau de l'invocation. Car si Allah subhanahu wa ta'ala me facilite et m'inspire l'invocation, il a dit, yani, l'exaucement, inshallah ta'ala, c'est facile. Non. Mais des fois, la personne n'est pas inspirée pour faire des invocations. C'est pour ça que tu trouves certains gens qui ne font presque jamais d'invocation. Presque jamais. Subhanallah l'alim. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit que Allah subhanahu wa ta'ala yaghdab إذا لم يسأل. إلا دي الله سبحانه وتعالى يعني devient en colère, نعم, quand quoi? Quand on ne lui fait pas des doigts. Chaque personne qui ne fait pas des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala est en colère contre elle. Subhanallah al-Azim. C'est exactement là le contraire, yani, par rapport aux êtres humains. L'être humain, si à chaque fois tu lui fais des doigts, tu lui demandes des choses, plus tu demandes, plus il commence à devenir en colère. Tu te dis, tu m'as demandé hier, tu prêtes-moi telle chose, aujourd'hui tu me dis, donne-moi telle chose. Lui, ça suffit, quand même, il y a des limites. Ça, et tu te mets en colère. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le contraire. Plus tu lui demandes des choses, plus il est ravi de toi. Il dit quoi? Il dit, donc cette personne reconnaît qu'elle est pauvre et que je suis riche. Cette personne reconnaît qu'elle est faible et que je suis fort. Cette personne reconnaît qu'elle est seule et qu'elle ne peut pas toute seule, qu'elle a besoin de mon aide. Et comme ça. Et à chaque fois que tu demandes par Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est comme si, je dis c'est, car tu vas pas dire ça, mais c'est comme si tu disais, moi j'ai pas besoin de l'aide d'Allah. Moi, avec mon argent, mes connaissances, et yani, alhamdoulilah, ce que j'ai comme piston, etc., je peux tout faire. Je n'ai pas besoin que je fasse de doigts. Astaghfirullah. C'est pour ça que les pieux, les messagers, les élus d'Allah, etc., ils n'arrêtent pas de faire des doigts. Dans toute chose. Vous avez entendu tout à l'heure ce qu'a dit Aïcha. Quand tu lasses, tu veux lasser tes souliers, fais une doigt. Fais une doigt à Allah Ta'ala de t'aider. Pourtant, c'est sûr que tu vas arriver tout seul. Mais en faisant déjà une doigt, tu as montré que tu ne pouvais t'en passer une seconde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais que tu avais besoin toujours de son aide dans la plus petite des choses et la plus grande, bi'idhnillah ta'ala. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit, ne trouve pas long la venue de l'exaucement, car tu as obstrué son chemin par les péchés. Non, ne t'étonne pas, de quoi? De la longueur de la venue de l'exaucement. Ne t'étonne pas, pourquoi il n'y a pas d'exaucement? Et ça fait des années que je fais des doigts, pourquoi? Car tu as obstrué, tu as entravé le chemin de l'exaucement par les péchés. Tes péchés ont empêché, Naam, que ton doigt, ta doigt soit exaucé. Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a rapporte, il a dit, lorsque Uthman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu, le troisième calife, fut assassiné, mon père, naam, c'est écrit ici, mon père pria la nuit et invoqua en disant, regardez, lorsque le père de Abdullah ibn Amir ibn Rabi'a a entendu que Uthman ibn Affan a été assassiné, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, il a prié la nuit et je l'ai entendu dire ainsi, ô Allah, ya Allah, préserve-moi des troubles par ce dont tu as protégé tes serviteurs pieux. Ya Allah, protège-moi des troubles et des fitnes, par ce dont tu as protégé tes serviteurs pieux. Son fils dit, l'exaucement ne s'est pas fait attendre, et au matin, on procédait à ses funérailles. L'exaucement ne s'est pas fait attendre. La même nuit où il a fait cette doua, il est mort. Et au matin, on procédait à ses funérailles. C'est interdit quand quelqu'un est dans les fitnas, ou bien il a mal, ou bien ceci, ou bien cela, demande à Allah subhanahu wa ta'ala de le faire mourir. Et celui-là, vous avez remarqué, il n'a pas demandé à Allah ta'ala de le faire mourir. Il lui a demandé de le préserver des fitnas et des troubles. Et Allah ta'ala a choisi, yani, comme façon de le préserver. Il n'y a pas la meilleure façon que de le faire mourir, bi'idhnillahi ta'ala. C'est pour ça que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, disait dans un hadith authentique, il disait, « Ya Allah, dans ce sens, « Ida aradta fitnatan biqawm, fatawaffani ghayra maftoun. » Ya Allah, si tu veux des troubles à une communauté, alors, ya Allah, yani, ôtez mon âme, prenez mon âme, sans que je sois dans les fitnas. Sans que je sois dans la fitna. Abu Darda, rahimahullah, radiyallahu ta'ala, Abu Darda, radiyallahu ta'ala, anhu, a dit, prends garde aux invocations de l'opprimé, car elle s'élève vers Allah comme les étincelles du feu. On va revenir ici. Et Fudayl ibn Ayyad, rahimahullah, a dit, si j'avais une invocation exaucée, si jamais j'avais une invocation exaucée, et que Allah Ta'ala me dit par exemple, allez, fais une invocation maintenant, je vais te l'exaucer. Il a dit, si jamais j'avais une invocation exaucée, alors je la réserverai au gouverneur musulman. Pourquoi ? On lui a dit pourquoi ? Il a dit, car la rectitude du gouverneur amène la rectitude du pays et des serviteurs. Subhanallah al-Azim. Quand tu fais une doua, pourquoi al-Sunnah al-Jama'a, quand ils font khutbat al-Jumu'ah, quand ils font ceci, cela, ils font toujours des douas pour que Allah subhanahu wa ta'ala guide le gouverneur. Pour que Allah ta'ala guide le gouverneur. Naam. Pourquoi elles, Sunna ou Jama'a, disent, comme dit le Barbahari dans Sunna, etc., qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu vois Rajul, l'homme, faire des douas, quand il fait des douas, faire des douas au gouverneur, pas contre le gouverneur, au gouverneur, sache que c'est quelqu'un de elles, Sunna ou Jama'a. Et si tu vois quelqu'un faire des douas contre le gouverneur, sache que c'est quelqu'un de la bida. Sache que c'est quelqu'un de la bida. Pourquoi? Pourquoi les gens de El Sunna font des doigts au gouverneur? Car quand tu fais la da'wa, tu fais une doua à un gouverneur et que Allah subhanahu wa ta'ala t'exauce. Tu dis par exemple, Ya Allah, je donne un exemple là, Ya Allah, faites que le président Bouteflika devienne, c'est un exemple, c'est tout, deviennent yani, parmi yani, les meilleurs musulmans, ou un pieux, ou alors comme Omar ibn Abdelaziz, par exemple. Qu'est-ce qui va se passer? Si Allah Ta'ala va exaucer ma doua, et que, donc, yani, le président va quoi? Va changer de fond en comble. Il va devenir l'un des plus pieux. Mashallah, une personne pieuse. Qu'est-ce qui va se passer? Ensuite, c'est nous tous, le peuple, qui allons quoi? Qui allons profiter. Nous allons vivre l'islam. Nous allons vivre l'application de la charia. Nous allons vivre, il n'y a plus de grands péchés, bi'idhnillahi ta'ala. Même si ceux qui font les péchés, ils les font en cachette dans leur maison. Il n'y a plus de riba, il n'y a plus l'usure, il n'y a plus l'alcool, il n'y a plus ceci, il n'y a plus cela. Il n'y a plus le vom. Il n'y a pas, tu marches dans la rue, quelqu'un vient, te fait tort, il t'emmène en prison, il n'y a pas tout ça, ça va s'arrêter. Personne ne te prend tes biens, personne ceci. Donc, quand tu fais la doua au gouverneur, c'est mieux que tu la fasses à toi-même. Si tu la fais à toi-même, si jamais Allah Ta'ala t'exauce, c'est toi seul qui as gagné, c'est toi seul le gagnant. Mais si tu la fais au gouverneur et que Allah t'exauce, c'est tout le peuple qui est gagnant. C'est tout le peuple, toute la Ummah qui a gagné. Bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On termine maintenant en disant, il y a deux choses. La première, Maymoun ibn Mahran, rahimahullah, a dit, si un homme se rend chez le gouverneur et que ce dernier, le gouverneur, refuse de le recevoir, alors qu'il se rende aux maisons du miséricordieux. qu'il aille à la mosquée, car elles sont ouvertes, les maisons du miséricordieux. Elles sont ouvertes. Qu'il accomplisse deux rak'at et demande ce dont il a besoin. Masha'Allah, masha'Allah. Si quelqu'un va au gouverneur, si quelqu'un va chez le gouverneur et que ce dernier refuse de le recevoir, il a refusé de me recevoir. Il ne reçoit que les présidents et les ministres et les rois. Moi, je suis quelqu'un de pauvre et d'inconnu, etc. Il ne va pas me recevoir. Alors, il te dit ici, va rendre visite, va à la maison de qui? La maison d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Fais deux rak'at et demande ce dont tu avais besoin. Ce dont tu voulais demander au gouverneur. Car pourquoi tu es allé chez lui? Sûrement pour lui demander une chose. Demande maintenant à qui? Au Dieu du gouverneur. Maintenant, ce n'est pas le gouverneur qui est avec toi. C'est son Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala. C'est celui qui l'a créé. C'est son Seigneur. Demande à son Seigneur. Va dans sa maison et demande à son Seigneur. Si tu es sincère, il te répondra. Je disais tout à l'heure, Abu Darda, radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, prends garde aux invocations de l'opprimé, car elles s'élèvent vers Allah comme les étincelles du feu. Elle s'élève vers Allah comme les étincelles du feu. Naam. Le prophète alayhi sallam a dit dans un hadith authentique, il a dit, ittaqu da'wat al-madhloum fa inna tas'adu ila as-sama'i ka'annaha sharara. Cheikh al-Albani a dit, hadith sahih. On dort sahih al-jami' numéro 118. Naam. Craignez l'invocation de l'oppressé, car son invocation monte vers le ciel comme si c'était une étincelle. Naam. Craignez l'invocation de l'oppressé. Attention que tu lèses, que tu fasses du tort à quelqu'un. Car s'il va faire une doua, elle va monter vers le ciel comme si c'était une étincelle. Vous savez l'étincelle? Que, yani, la vitesse qu'elle a. La vitesse, yani, comment qu'elle va monter vers le ciel. J'ajoute que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, ici qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, craignez l'invocation de l'oppressé, c'est tout. Il n'a pas dit de quel oppressé il parle, du musulman ou du kafir. Il n'a pas dit. Regardez dans ce hadith. Il a dit, ittaqu da'wat al-madhloum wa in kana kafiran fa innahu laysa duna hijab. Il faut voir Sahih al-Albani, Sahih al-Jami' numéro 119. Écoutez ici ce qu'il a dit. Écoutez ici ce qu'il a dit. Craignez l'invocation de l'oppressé, même s'il est mécréant. Elle n'a pas de voile devant elle. Non. Craignez l'invocation de la personne à laquelle tu fais du mal et du tort, même si cette personne est mécréante. Car sa doua, rien ne l'empêche qu'elle soit exaucée. Il n'y a aucun voile ne va pas la laisser monter. Naam, pour qu'elle soit exaucée. Donc il a dit, il n'y a pas de voile. Elle va monter vers Allah subhanahu wa ta'ala et va être et va être exaucée. Donc attention à ceux qui disent que celui-là c'est un mécréant. Qu'est-ce qu'il va faire? Laisse-le. Laisse-le qu'il fasse des doigts à jour et nuit, c'est pas accepté. C'est un kafir. Il croit même pas en Allah. Il croit même pas en Allah et il fait des doigts contre moi. Laisse-le faire. C'est pas accepté. C'est pas accepté. Tu as entendu le hadith. Il est sahih. Numéro 119 dans Sahih al-Jami'. Naam. Et dans un autre hadith, il a montré pourquoi. Il a dit ici. اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دون حجاب وله شاهد بلفظ دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا ففجوره على نفسه. حديث حسن مختصر في الصحيحة 767. Ça donne à peu près en ce sens. نعم. Craignez l'invocation de l'oppressé même s'il est mécréant, car elle n'a pas de voile. Et dans une autre version, l'invocation de l'oppressé est exaucée même s'il est pervers. Car sa perversité, Naam, c'est contre lui, le fait qu'il soit pervers. Ça, c'est contre lui. Ça joue pas pour lui, ça joue contre lui. Mais lui, quand il fait une doua pour Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'avoir été oppressé, Allah ta'ala lui, quoi? Lui exauce. Allah ta'ala lui exauce, c'est quoi? Ses doua. Donc je dis et je répète, attention à ceux qui croient que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, n'exauce pas le mécréant et ils vont lui faire du tort et le voler ou bien l'insulter ou bien je ne sais pas quoi. Ils disent, celui-là, yani, il peut faire des doigts, ça compte pas. D'ailleurs, peut-être même que certains vont te citer quelque chose, par exemple, du Coran ou bien du Sunna. Comme quoi, sans yani la doua, l'invocation du mécréant n'est pas acceptée. Regardez par exemple celui qui va dire cette chose. Regardez. Il va te dire, Allah Ta'ala dit dans le Coran, wa ma du'a'ul kafirina illa fi dalal. Eh bien, priez, faites des doua. Ensuite, il a dit, et l'invocation, les doua des mécréants n'est qu'aberration. Dalal. Aberration sur aberration. Donc, c'est pas accepté. Priez, faites des doigts. L'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Wa ma du'a ul kafirin illa fi dalal. C'est pas accepté. Sourate Ghafir, verset 50. Qu'est-ce qu'on va répondre à cela? Tu as cité un verset. Tu as dit que Allah Ta'ala dit l'invocation des mécréants n'est qu'aberration, n'est pas accepté. Tu lui dis, mais un sunna ul jama'a, ils expliquent le Coran, Naam, de différentes façons. Entre autres, ils expliquent le Coran avec quoi? Avec le contexte. Naam. Donc toi, tu as cité ce verset, mashallah. Mais c'est quoi le contexte de ce verset? Pourquoi Allah Ta'ala dit, eh bien, prier et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Pourquoi a-t-il dit ça? Qu'est-ce qui s'est passé avant ce verset? Alors écoutez ce qu'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit, وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوم من العذاب. Comment ça s'est passé? Il a dit, et ceux qui seront dans le feu diront aux gardiens de l'enfer, faites des doigts pour votre Seigneur afin qu'il nous allège un jour de notre supplice. Donc ceux qui sont en enfer, quand ils sont rentrés en enfer, là c'est trop tard, les portes sont fermées de l'enfer, ils peuvent plus supporter. Ils disent aux gardiens de feu, l'enfer a des gardiens, ils leur disent, faites des doigts à votre Seigneur pour qu'il allège de nous un jour. Vous savez ce qu'ils ont dit? Un jour. Ils n'ont pas dit, faites des pour qu'il nous fasse sortir de l'enfer. Ce n'est pas possible. Mais ma'alish, un jour, 24 heures seulement, si c'est possible. Qu'il allège de nous seulement. Ce n'est pas il arrête le supplice. Non, il allège, c'est tout. Allège, allégé. Si la température du feu est de 1000, qu'il la rende 800. 800 degrés au lieu de 1000. C'est un exemple. Bon. Donc, ce sont ceux qui sont en enfer qui ont demandé aux gardiens de faire des doigts pour que Allah subhanahu wa ta'ala allège. Allège. Voilà la réponse. Écoutez la réponse. Qalu, awalam takun ta'tikum rusulukum bil bayyinati qalu bala. Ils vont leur dire, c'est-à-dire les gardiens, ils vont leur dire, vos messagers ne vous apportaient-ils pas les preuves évidentes? Ils vont répondre, si. Alors les gardiens vont leur dire, eh bien, priez. Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Donc, pour celui qui va nous citer le verset, eh bien, prier et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration, on va lui dire, excuse-nous, mais ça, c'est Yom al-Qiyamah dans le feu. Tandis que maintenant, dans notre vie, on a le hadith sahih du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qui dit que, attention, fais garde à l'invocation de l'oppressé, même s'il est kafir. Voilà. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaît le Coran mieux que nous. Et le prophète, alayhi salam, connaît le verset que tu viens de citer, toi, mieux que toi. Il sait qu'il y a un verset qui dit, eh bien, priez, Et l'invocation des mécréants n'est qu'aberration. Mais malgré cela, il a dit que si le kafir fait des doua contre toi, car tu lui as fait tort, alors l'invocation va être exaucée. Naam. Voilà, inchallah ta'ala, ce que je voulais dire pour aujourd'hui. Donc vous avez compris comment j'ai terminé le dars en disant que al-sunna al-jama'a, naam, ils font, yani, appel au contexte. Des fois, ils font appel au contexte. Pourquoi ? Pour yani expliquer des choses. C'est pas ils prennent comme ça des versets, des hadiths et ils frappent n'importe où et ils les citent n'importe comment. C'est un peu comme si quelqu'un va nous dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par exemple, a dit que ce n'est pas bien de jeûner quoi, yani dans le voyage. Il va nous dire, j'ai un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Laysa min al-birri siyam fi safar. Sahih Abi Daoud 2082. Ce n'est pas de la piété le jeûne pendant le voyage. Ne fait pas partie de la piété le jeûne pendant le voyage. Donc, celui-là ou là, ce jahl ou là, qu'est-ce qu'il veut ? Il veut nous dire que voyager, c'est pas permis de jeûner. Car ça fait pas partie de la piété. On va lui dire la yadik. Cite-nous le contexte de ce hadith. Qu'est-ce qui s'est passé pour que le prophète Aslam ait dit cette phrase ? Il dit, ah, je ne sais pas. En vrai, tu ne sais pas. Tu vois que tu parles avec ignorance. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était en voyage et a vu quelqu'un évanoui par terre. Il a dit, celui-là, qu'est-ce qu'il y a ? Et les gens en train de, de l'ombrager, de lui jeter de l'eau sur lui, etc. Il a dit, qu'est-ce qu'il a, celui-là ? Il lui a dit, il a jeûné, il n'a pas supporté. Il tombe évanoui. Il a dit, alayhi wa sallam, il a levé, etc. Et après, il a mangé. Il a dit, ce n'est pas de la piété, le jeûne pendant le voyage. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, ça ne rentre pas dans la piété de jeûner pendant le voyage pour quelqu'un dans ce cas. Pour quelqu'un qui est, yani, dans ce cas de cette personne qui, yani, va jeûner ensuite, va tomber jusqu'à s'évanouir. Ça ne rentre pas dans la piété. Dans ce cas, il faut manger. Que ça soit pendant le ramadan, ou que ça soit encore pire si ce n'est pas le ramadan. Sinon, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith Bukhari, le sahabi rapporte, il a dit, nous partions en voyage pendant le ramadan avec le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il faisait une chaleur torride, nous, les sahabas, nous tous, on mangeait, et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait, lui et Abdullah ibn Rawaha. Donc, comment le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, jeûnait, pendant le voyage, pendant le ramadan, avec la chaleur torride, et il va dire, c'est pas de la piété, le jeûne pendant le voyage. Donc, c'est contradictoire. Si ce n'est que, comme j'ai dit, alhamdoulilah, que les gens, les savants, savent comment joindre et grouper entre les hadiths, et expliquer, yani, chacun d'après son contexte, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Voilà, inshallah ta'ala, pour aujourd'hui. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إن شاء الله تعالى جو دون 10 minutes إن شاء الله تعالى pour les questions إن شاء الله تعالى et Muslim je te rappelle seulement si c'est toi إن شاء الله تعالى qui va commencer à lire les questions je te rappelle إن شاء الله تعالى وجزاك الله خيرا que on commence toujours par les questions qui ont rapport avec le cours je ne parle pas d'aujourd'hui mais de toujours tu connais la règle et si jamais il n'y a pas quelque chose qui a un rapport avec le cours. C'est possible. Si jamais il n'y a pas quelque chose qui a un rapport avec le cours, au moins quelque chose qui a un rapport un peu avec l'Iman, avec le Jannah, avec le Paradis, avec l'Aqida. Pas de divorce, pas de khula, pas de monstru. On ne commence pas avec ça. Ça, ce sont des choses importantes, mais laisse-les dans le milieu pour ne pas casser yani, le cours. Le cours, on parlait de Iman, de ceci, Jannah, Paradis, etc. Ensuite, on va rentrer direct dans yani, le divorce et les monstrues. Laisse ces choses-là, Inch'Allah Ta'ala, pour la moitié du cours, Inch'Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, subhanakallahu wa bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tfadlal.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, jazakum Allah khairan, shaykh, barakallahu fikum. Dites-moi, concernant les questions, est-ce que je fais ma levée et cite Ou alors uniquement les mains levées, ou alors uniquement le site. Dites-moi comment je procède, Inch'Allah. Tfadal, cher. Les deux. D'accord, Inch'Allah. Pas de problème, cher.
Non, alhamdoulillah. Sauf, je demande seulement une chose. Moi, pourquoi je fais les deux comme ça? Pour que les personnes qui ne peuvent pas écrire sur le site ou qui sont pas yani inscrites ou que ne trouvent pas d'excuses. On a beaucoup qui disent on a beau essayer de s'inscrire, on peut pas, c'est difficile, ceci, cela. Moi, chauffe. Je demande seulement. Allah subhanahu wa ta'ala est témoin, moi je peux pas savoir ce qui se passe derrière moi. Non. Je fais rappeler aux gens, je fais rappeler à ceux qui sont dans le salon que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit n'est pas de nous celui qui triche, celui qui triche. Et je considère que toute personne qui écrit sur le site et ensuite pose et ensuite lève aussi sa main, c'est une personne qui a triché. Non. Pourquoi? Il y a des gens qui restent des mois, ils ne peuvent pas poser une question. Et toi, tu viens, tu poses deux questions. Tu poses dans le site, ensuite tu lèves aussi ta main. Alors, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Comme tu aimes pour toi, il faut aimer pour autrui. Vous connaissez le hadith. Personne n'est jamais croyant s'il n'aime pas pour autrui ce qu'il aime pour lui-même. Mais donc, choisis, mon frère, ma soeur, choisis. Ou bien dans le site, ou bien lève la main. Naam. Ensuite, si jamais ta question passe dans le site, par exemple, enlève ta main. Naam. Ou barakallahu fikoum, jazakallahu khair, tfadl.
Donc, première question. Question d'une sœur. Assalamu alaikum. Barakallahu fikoum. Qu'Allah vous récompense pour ce magnifique cours. Ma question est la suivante. Doit-on croire, nous, Ahlus Sunnati wal Jama'a, que les invocations des kuffars sont exaucées pour ici-bas seulement par rapport au verset suivant, Sourate 17, verset 18. Quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé et repoussé. À partir de là, peut-on comprendre l'aisance dans laquelle sont certains mécréants? Tfadachir.
Chauffe, je dis à la personne, alaykoum salam, rahmatullah, wa barakatuh. Elle dit, doit-on croire, elle sonne au jama'a, que les invocations des koufars sont exaucées pour ici-bas, seulement par rapport au verset suivant, quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons, à qui nous voulons, puis nous lui assignons l'enfer où il brûlera, méprisé, repoussé. À partir de là, peut-on comprendre l'aisance dans laquelle yani, vivent certains mécréants. Je dis, premièrement, j'ai cité autant dit que vous l'avez entendu au kafir par rapport à l'opprimé. Par rapport à l'opprimé, le kafir, on a fait du tort. Celui-là, il y a un hadith clair en lui. Clair que yani Allah subhanahu wa ta'ala lui exauce ses doigts. Deuxièmement, pour le verset qu'a cité la sœur, il désigne aussi cette chose. Car, comme vous savez, dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les kuffars, vous savez que quand ils vont rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, ils n'ont pas de paradis. Donc Allah ta'ala, puisque c'est lui le plus juste, qu'est-ce qu'il va faire? Il va leur donner tout dans ce bas monde. Il va leur donner tout, yani, dans ce bas monde. C'est pour ça que le prophète, alayhi sallam, a dit dans un hadith authentique, il a dit, la dunya, ce bas monde, c'est le paradis du kafir. Et la prison, bien sûr, du croyant. Mais c'est le paradis du kafir. C'est pour cela aussi, on va dire que, comme a dit celle qui a posé la question, c'est de cela qu'on doit comprendre que les kuffars doivent yani, vivre mieux que nous en ce qui concerne l'aisance du bas monde. Mais remarquez que Allah subhanahu wa ta'ala a dit deux choses très importantes. Il a dit, quiconque désire la vie immédiate, nous nous hâtons de donner ce que nous voulons. Alors, première des choses, quand tu veux cette dunya, comme le kafir qui veut seulement cette dunya, et ce n'est pas tout ce qu'il veut lui, Allah Ta'ala lui donne. Mais Allah Ta'ala lui donne ce que Allah Ta'ala veut, ce que nous voulons. Et ensuite, à qui nous voulons. Ce n'est pas tout kafir, il a ce qu'il veut et il y en a quand il veut. Mais c'est seulement Allah Ta'ala, quand Allah Ta'ala veut, de lui donner. De lui donner. Enfin, sinon, en général, j'ai dit que, yani le hadith authentique du prophète dit que le kafir dans cette vie, Allah Ta'ala lui exauce et lui donne les enfants, il lui donne des biens, le risque, etc. Comme ça, quand il viendra Yom al-Qiyamah, il n'aura aucune excuse. Quand il va dire, Allah, je ne rentre pas au paradis, il lui dit, non, tu as eu ton paradis. Regarde, ceux-là, ce sont mes bien-aimés, les croyants, les élus, les rapprochés de moi, et ils ont vécu pauvres, ils ont vécu dans la misère, ils ont vécu nécessiteux, et tu vois, tu avais tout, tout, tu as eu ce qu'il fallait. Maintenant, c'est au tour des croyants, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, j'ajouterai une chose très importante. Ça ne veut pas dire que Allah Ta'ala, puisqu'il a donné tout au kafir dans ce bas monde, qu'il vit mieux que moi. Non, jamais. Car la vraie vie, c'est la vie des cœurs. Et non, c'est le kafir vit avec le corps, avec le cœur. Le kafir, si tu pouvais jeter ton cœur, tu l'aurais trouvé déchiré, déchiqueté. Nam, tremblant, ne savant pas ce qu'il fait, ne savant pas d'où il est venu, qu'est-ce qu'il fait dans cette vie, où est-ce qu'il va partir, et comment il va devenir, et à qui il va laisser tous les âges, et qui va l'hériter après lui, et ceci, et ceci, et cela. D'ailleurs, beaucoup des milliardaires se suicident, des archi-milliardaires qui possèdent la moitié de ce monde, et se suicident. Par contre, le croyant, tout pauvre qu'il est, il se sent le plus riche. Il est riche de l'iman. Quand Allah Ta'ala donne l'iman, la foi, et la sakina, il l'a fait descendre dans le cœur de quelqu'un, il lui a donné tout ce qui est de meilleur dans ce monde. C'est pour ça qu'il a dit dans un verset, Allah Ta'ala dit, « قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا dit de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. C'est de cela, c'est de là qu'ils doivent se faire. C'est eux qu'ils peuvent rassembler dans cette vie. Quand Allah Ta'ala te donne sa grâce, te donne la foi, te donne le khushu dans le cœur, te donne le fait de l'aimer, de vouloir aller vers lui, de prier, de faire de bonnes œuvres, de d'aimer le paradis, de détester l'enfer, de tu vas sentir que tu es la meilleure personne sur cette vie. Au point, quand tu verras le kafir avec sa dernière voiture et toutes les maisons et les palais qu'il possède, il va te faire de la peine. Tu vas dire skin celui-là. Allah, il me fait de la peine. Pourquoi? Il n'a pas connu la chose la plus importante, c'est il n'a pas connu l'iman, il n'a pas connu Allah subhanahu wa ta'ala. À quoi ça sert cette vie? C'est une vie de bestiaux, une vie d'animaux. Allah ta'ala dit en parlant des kuffars, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُوا وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُوا الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ. Allah ta'ala dit, وَالَّذِينَ كَفَرُوا, il est mécréant, يَتَمَتَّعُونَ, jouissent et mangent comme mangent les bestiaux. Ensuite il a dit et c'est le feu qui les attend. C'est Allah subhanahu wa ta'ala l'afiya. Tfadlal.
Question suivante, question d'un frère. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh shaykhana. Qu'Allah ta'ala vous couvre de son abondante bénédiction. Ma question est la suivante: parmi les moyens de se repentir, quel est le plus aimé auprès d'Allah? Est-ce la demande de pardon par la parole, le jeûne surérogatoire, la sadaqa, salat tawba, le hajj, etc. Barakallahu fikum. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour le hajj, ici la personne a cité le hajj. Entre autres, je dis le hajj c'est un pilier. Le hajj fait partie des cinq piliers. Naam. Donc celui-là, c'est pas la peine de parler de lui. Je dis, La meilleure façon de se repentir, c'est de faire comme disent les savants. C'est que je regrette d'avoir fait la chose. C'est que j'arrête de la faire. Ce n'est pas, je bois toujours et je dis, yani, je me suis repenti. J'arrête de boire. Je regrette d'avoir bu et je mets dans l'intention à l'avenir de ne plus jamais boire. Ensuite, à chaque fois que je prie, à chaque fois que je pose ma tête pour le soujoud, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala le pardon. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de me pardonner. À chaque fois que ça me vient dans l'esprit cette chose, ce péché, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner. Ensuite, cela dépend de la personne. Si elle veut jeûner des jours surérogatoires pour qu'Allah lui pardonne, qu'elle le fasse. Et c'est une preuve aussi de son repentir. Il y a des gens qui, c'est difficile pour eux de jeûner. Alors, ils ont de l'argent. Ceux-là, par exemple, qu'ils fassent de l'aumône, qu'ils aident les pauvres, qu'ils aident les mosquées, qu'ils aident. C'est une preuve de la tauba. Et ceux qui n'ont pas l'argent, donc, celui-là, il va jeûner. Non. Ou alors, il va prier, surrogatoire, et comme ça. Et moi, il n'y a pas une chose spécifique. Tout ce que tu fais, que Allah Ta'ala a légiféré, et que tu fais dans le but que c'est pour Allah, et pour qu'il soit ravi de toi, et pour qu'il te pardonne et accepte de toi, Inch'Allah Ta'ala, si tu es sincère, il sera accepté, bi'idhnillahi Ta'ala. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas spécifié des choses. Il a laissé comme ça, ouvert, pourquoi? Pour que chaque personne puisse faire le repentir. S'il avait dit, il faut par exemple seulement que tu donnes l'aumône. Il y a des gens qui n'ont pas d'argent. S'il avait dit, il faut que tu lises le Coran une fois par jour, tout le livre. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'arabe, comment ils vont le lire? Et comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala t'a laissé toutes les portes ouvertes. Il te dit, rentre par la porte qui t'est la plus facile. Et tu me trouveras, Inch'Allah ta'ala. Fadlan.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah, ainsi que ceux qui ont suivi ce cours et nos familles. Yachir, sommes-nous responsables des péchés commis envers autrui alors que ceux-ci ont eu lieu du temps de la Jahiliya, avant que l'on fasse la prière? Barakallahu fikoum. Allah fi dunya wal akhirah, ainsi qu'à nos familles. Tfadal Cheikh.
Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh, et amin pour les doigts. De préférence, pour quelqu'un qui n'est pas converti, ou qui n'est pas reconverti, quand il parle de la période où il ne faisait pas la prière, de préférence, il ne dit pas la jahiliya. Il dit quand j'étais dans la période du jahl, de l'ignorance. Mais il ne dit pas jahiliya. Jahiliya, c'est pour converti, hein, qui rentre en islam, qui était carrément des kofars. El-Mohim. Ça, c'est une petite remarque. Deuxièmement, sommes-nous responsables des péchés commis envers autrui alors que ceux-ci ont eu lieu du temps de l'ignorance? Je dis, maintenant que la personne a commencé à prier et elle a fait la tauba, le repentir sincère, c'est comme tout à l'heure, comme a dit la personne, tu as effacé avec la gomme. Tu as une nouvelle page avec toi, tu vas recommencer. De nouveau, là, à nouveau, bi'idhnillah, subhanahu wa ta'ala, c'est comme si tu venais de naître. Quelqu'un qui naît, vous savez que il n'a pas de péché. Sauf, si, avec autrui, comme il dit ici, celui qui a posé la question, il y a des choses que tu n'as pas encore réglées. Comme par exemple, quand tu étais dans l'ignorance, tu as volé à quelqu'un sa montre et il ne sait pas. Et que tu l'as toujours. Naam. Celui-là, tu dois lui rendre sa montre. Même si tu n'es pas obligé de lui dire que c'est toi qui l'as, mais l'a arrivé. La lui mettre dans sa boîte aux lettres, voyez par une autre personne, je sais pas, lui faire, yani, lui rendre sa montre. Si tu as des dettes avec quelqu'un que tu n'as pas payé, tu dois lui payer ses dettes. Sinon, Inch'Allah Ta'ala, c'est comme j'ai dit, la personne vient de commencer une nouvelle vie, bi'idhnillahi subhanahu. Je profite pour dire deux choses. Muslim, est-ce que tu m'entends? Est-ce que la personne est là? La personne qui la fois passée dans... Ça fait un mois là avant avant de tomber malade, avait dit que yani, celui qui s'est suicidé, ça rentre pas dans le destin. Est-ce que cette personne est là, qui a écrit une fois, qui a dit que la personne qui s'est suicidée, ça rentre pas dans le destin? Naam. Elle dit, c'est la première des choses. Et la deuxième des choses, quand j'ai dit tout à l'heure que si pendant la période d'ignorance, j'ai volé à quelqu'un une montre, j'ai dit que je dois la lui rendre. Maintenant, si jamais je ne sais pas où il est, j'ai toujours la montre, mais je ne sais pas où est la personne. Ni je connais sa famille, ni. Si je connais sa famille, je la donne à sa famille, ses héritiers. Si je connais ni sa famille, ni rien, je n'ai aucun lien avec la personne volée, alors je donne cette montre, fisabilah, en son nom, en nom de la personne volée. Ou bien je la vends. Je vends cette montre. Et l'argent que j'ai, je le donne par exemple à la mosquée ou bien à des nécessiteux au nom de la personne que j'ai volée, bi-idhnillahi ta'ala. Tfadla.
Donc, si la personne est présente concernant ce qu'a demandé le cheikh, qu'elle se manifeste aux frais du frère Fawzi, donc avec le pseudo Fawzi Alès underscore 1, ou alors auprès du frère Akh Mohamed 64, Inch'Allah. Donc, question suivante, question d'une sœur. Donc, auprès du frère Akh Mohamed. Salam alaikum wa rahmatullah. Barakallahu fikum, cheikh. Ça fait très plaisir de vous réécouter. Qu'Allah vous préserve. Je voulais vous dire, cher, j'ai demandé à mon père de me pardonner pour un tort que je lui ai causé il y a très longtemps. Il refuse de me pardonner. Pourtant, j'ai fait beaucoup d'efforts. Est-ce que ma taouba est tout de même acceptée? Barakallahu fikoum wa faqakoum Allah. Tfadal, cher.
Naam, wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Tu as fait ce qu'il fallait faire. Demander pardon. Tu l'as fait plusieurs fois. Tu es regrettante, repentante. Tu es sincère avec Allah que tu veux qu'il te pardonne et que tu veux que ton père te pardonne. Et tu as fait tout ce que tu voulais et lui, il n'a pas accepté. Donc toi, inshallah ta'ala, si l'occasion se présente aussi, fais-le. Ça veut dire, tu dis pas que ça veut dire. Mais, si jamais. Mais tu l'as, alhamdoulilah, devant Allah, tu as fait ce qu'il fallait là. C'était à lui, yani, d'accepter, bi-idhnillah, subhanahu wa ta'ala. De toute façon, yawm al-qiyamah, yani, si tu es sincère avec Allah, subhanahu wa ta'ala, tu as fait le repentir sincère, etc. Naam, si le père ne veut pas accepter, Allah ta'ala va le ravir. Comme dit Cheikh Ibn Uthaymeen, en lui proposant des choses, des palais, etc., dans le paradis, et il acceptera bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal.
Question suivante. Salam alaikum. Les doigts ne sont pas acceptés si l'on s'habille de façon haram. Est-ce qu'une femme qui sort dehors avec des vêtements interdits, comme un pantalon serré, avec une tunique un peu longue, des vêtements qui la serrent et montrent ses formes, même s'ils ne sont pas spécialement vulgaires, est-ce que cette personne fait partie des gens dont les doigts ne sont pas acceptés, sachant qu'elle sait que ces vêtements-là sont interdits? Dehors par Allah Ta'ala. Jazakumullah khairan wa hafizakumullah ajma'in. Wassalamu alaikum. Tfadal, cheikh.
Wa alaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Naam, c'est comme j'ai dit, quand la personne s'habille au haram, ou bien mange du haram, ou bien la dame, naam, elle ne sera pas acceptée dans les doigts, dans le moment où elle est habillée ainsi, et dans le moment où elle a, yani, ce manger-là dans son ventre. Le moment où elle s'est partie, car elle peut se repentir après, bi-idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Naam. Et n'empêche, je dis n'empêche que, il y a une personne qui fait des péchés et à laquelle Allah subhanahu wa ta'ala n'exauce pas les doigts, ça n'empêche pas que des fois la personne se trouve dans une grande nécessité et revient vers Allah avec une grande sincérité et que Allah ta'ala lui exauce. Il lui exauce non pas parce que elle a des habits haram ou elle a mangé Mais il lui exauce dans le moment où il est revenu là, dans les moments de ses doigts, avec une grande force. Pourquoi? C'est pourquoi, Naam, Allah subhanahu wa ta'ala, des fois, il exauce le kuffar, yani ne croit même pas en lui. Mais des fois, ils sont dans une où ils savent que, classe, il n'y a plus personne qui peut les disons sauver, sauf Allah subhanahu wa ta'ala, ils font des doigts. Et Allah les exauce, malgré que ce sont des kuffars. Qu'en est-il que si ces musulmans qui ont des vêtements haram? Mais ça, c'est dans le cas, comme j'ai dit, où vraiment la personne est dans la contrainte. Comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, Amman yujibul mudtarra idha da'a. Il a dit, et qui exauce à celui qui est dans la contrainte, si lui fait des doigts. Qui lui exauce? C'est-à-dire moi, pas un autre. J'exauce à quelqu'un qui est dans la contrainte. Allah alam.
Question d'une sœur. Salam alaikum. J'ai entendu ce soir ce hadith. Les péchés ont empêché ton invocation qu'elle soit exaucée. Pouvez-vous nous redonner l'explication et aussi de qui elle est? J'ai mal entendu. Qu'Allah vous accorde al-Firdaous, cher, ainsi qu'à nous tous. Qu'Allah augmente notre science. Tfada, cher.
Wa alaykoum salam. Donc, je dis d'abord que ce n'est pas un hadith. Ce n'est pas un hadith, mais je vais vous dire, inshallah ta'ala, qui l'a dit des salafs. Qui l'a dit des salafs. Mais ce n'est pas un hadith. Une seconde. Une seconde. S'il n'y a pas, non mais. Nous asseyons, je crains. Pourtant, on ne trouve pas l'avenir. Voilà, c'est Yahya ibn Mu'adh. Yahya ibn Mu'adh, rahimahullah, a dit, ne trouve pas long, ne trouve pas long la venue de l'exaucement. Car tu as obstrué son chemin par les péchés. Naam. Maintenant, tu fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite tu vas faire plein de péchés. Et comment tu veux qu'il t'exauce? S'il t'exauce, quand tu fais des doigts, ce qu'il y a après les doigts, c'est la droiture, c'est l'istiqama, c'est le bon comportement, c'est la piété. Ce n'est pas, yani, l'insan va faire des doigts, ensuite il va faire des grands péchés, il va jouer à la loterie, il va boire de l'alcool, il va, et il attend que Allah Ta'ala va l'exaucer. Ça marche pas ensemble, naam. La contradiction. Tfadval.
Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Question d'une sœur. Cher Barakallahu fekoum, ainsi que les admins et tous ceux qui sont présents. Qu'Allah vous accorde une demeure au paradis. Ma question est sur l'invocation. Quand on invoque Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on a une épreuve dure, peut-on dire, entre parenthèses, entre guillemets, je suis fatigué. Je ne dis pas pourquoi tout cela m'arrive, mais juste que c'est dur et que je suis fatigué. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa Vous m'entendez? Alhamdulillah. Là, j'ai interdit de je suis fatigué. Je le dis en moi-même ou bien je dis à Allah. Quand je dis à Allah, ya Allah, je suis fatigué. Aidez-moi, ya Allah. Aidez-moi, je suis fatigué, ya Allah. Si vous m'aidez pas, je vais être le perdant, ya Allah. Ceci, ya Allah, cela. Non. C'est pas interdit. Mais ce qui est interdit, c'est de dire, par exemple, comment, yani, je me fatigue tout cela, et ensuite, il n'y a pas, et Allah, vous ne me répondez pas, et ceci. Non, c'est pas une obligation qu'il te réponde. C'est une grâce qu'il te fait. C'est une grâce. Ce qui est très mauvais, c'est de se plaindre aux gens. Surtout, 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 a'oudou billah, si la personne va se plaindre d'Allah. Et elle dit, moi, j'ai fait ceci, cela, je fais des doigts jour et nuit, il ne me répond pas, etc. C'est très grave. Non. Si elle dit aux gens, je suis fatigué, je suis malade, je suis ceci, mais allez, c'est pas grave. Je suis éprouvé, j'ai des fitnas, j'ai ceci, puisque Allah subhanahu wa ta'ala m'aider, faites-moi des doigts, tout ça, c'est permis. Mais, naam, qu'elle laisse la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'elle laisse la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et qu'elle se dise, Si Allah subhanahu wa ta'ala ne m'a pas exaucé, c'est aussi pour un bien pour moi. Ou bien j'ai des péchés qui obstruent, qui entravent l'exaucement, ou bien ce que je demande, moi je sais pas. Allah ta'ala ne veut pas me répondre. Ou bien ce n'est pas le moment. Si Allah ta'ala m'exauce maintenant, c'est pas bien. Moi je crois que c'est bien, mais ce n'est pas bien. Donc Allah ta'ala veut m'exaucer au moment opportun. Au moment opportun que seul Allah ta'ala connaît. C'est pour ça que je dois toujours penser du bien en Allah ta'ala et avoir confiance en lui. Même dans le cas où il ne me répond pas. Même dans le cas où je me dis toujours un bien pour c'est moi je sais pas. Naam. Tfadlan.
Question suivante, question d'un frère. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Qu'Allah nous accorde à tous le paradis. Est-ce un hadith, la parole que vous avez dit, que vous avez dite, car je n'ai pas fait attention. Donc la parole dit, si quelqu'un va au gouverneur et qu'il refuse de le recevoir, rends-toi chez la maison d'Allah et fais 2 rak'at et demande ce que tu as besoin dans le sens. Dans ce sens. Barakallahu fikoum. Tfadal, cher.
Walaykoum salam, rahmatullah wa barakatuh. Non, c'est pas un hadith. C'est la parole d'un salaf, un grand salaf, un grand savant des salafs, qui s'appelle Maymoun ibn Mahran. Maymoun ibn Mahran. C'est lui qui a dit ça, bi'idhnillahi ta'ala, et ce n'est pas un hadith. Tfadlal.
Question suivante. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quel est le meilleur temps et la meilleure façon pour faire dua? Barakallahu fikum. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa barakatou. Avant cela, pour la personne qui m'a écrit une fois, qui m'avait demandé de l'aider, qu'elle avait lu tel et tel livre, etc. Et si je me rappelle très bien, c'est une sœur. Je n'ai plus son adresse mail. J'ai bien cherché dans mon courrier. Surtout que maintenant, quand j'ai ouvert le compte Twitter, seulement ça fait 10 jours ou là, c'est-à-dire que maintenant, subhanallah al-azim, c'est très difficile de lire dans le courrier. Pourquoi? Tous ceux qui écrivent dans le Twitter, je ne savais pas que ça allait directement aussi dans ma boîte de courrier. Ce qui fait maintenant que je ne peux plus distinguer où est quelqu'un qui a écrit yani un mail et où est le Twitter. Donc, si elle veut recontacter, elle doit réécrire, yani, c'est pas le contenu de la lettre, le contenu de la lettre, je le connais, mais ça, son adresse. Je dis, le meilleur temps, la meilleure façon de faire des doigts, les meilleures façons pour faire les doigts, je ne sais pas ce que veut dire ici façon, mais c'est que, yani, on lève les deux mains, on les rapproche du visage. Non, je savais pas, on les rapproche du visage. Les deux mains presque ou collées, ou alors collées l'une à l'autre du côté des deux petits doigts. On les monte un peu vers le visage. De préférence, on commence par faire des éloges. Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdoulillah, alhamdoulillah, on fait la salat sur la prière sur le prophète. La prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. J'arrête parce que la personne qui a posé la question, je vois que elle vient de quitter le salon. Peut-être c'est un bug, Allahu alam. Al-Muhim, pose une autre question le temps que cette personne revienne, inshallah.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi Je suis une sœur étudiante et je recherche un stage pour valider mon diplôme. J'ai fait des doigts pour trouver un stage, mais la date limite pour faire ce stage approche. Des fois, j'ai dans mon cœur des hauts et des bas quant à l'exaucement de ces doigts. De plus, quelquefois, je fais des péchés que je regrette, ce qui m'attriste encore plus. Quel conseil pouvez-vous me donner, cher Barakallahu fikoum, et qu'Allah récompense la participation des frères et sœurs dans ce forum, dans ce salon. Tfadal, cher.
Ah, Muslim, j'ai pas bien compris la question. J'ai pas bien compris la question. Qu'est-ce que tu as là?
Non, probablement, cher, il faut comprendre le sens de la question par rapport à ce que vous avez dit dans le cours. Quand on veut qu'une doua soit exaucée, il faut qu'on soit convaincu et optimiste. C'est-à-dire, il faut qu'on y croie dans la doua. Et là, elle dit qu'elle a des hauts et des bas. C'est-à-dire, je pense que des fois, elle n'y croit pas trop. Elle fait doua, mais elle ne croit pas que ça va être exaucé. Allahu a'lam, c'est de cette façon que j'ai compris. Et si ce n'est pas ce qu'il fallait comprendre, que la personne me le dise en PV, Inch'Allah. Tfadal, cher.
Donc, confirme-moi, Muslim. Donc, d'après ce que j'ai compris moi, car je l'avais pas compris, mais quand tu as expliqué, j'ai compris. Donc, d'après ce que j'ai compris maintenant, c'est que cette personne n'a pas encore été exaucée, n'est-ce pas? Elle n'est pas encore exaucée. Elle dit la date approche, mais hein, c'est-à-dire elle n'est pas encore exaucée. Exaucée de plus, elle fait des doigts. Voilà. Quand on fait des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala, non, on doit avoir confiance en lui. Et on doit s'en remettre à lui en essayant de chasser et d'expulser le shaitan, a'oudou billah. Pourquoi? Parce que le shaitan et les ouswas ne vont pas s'arrêter de venir te dire que yani, tu ne seras pas exaucé. Ou alors que yani, comment yani, tu fais telle et telle chose et tu veux être exaucé. Et surtout que tu viens de faire un péché comme ça et comme ça. Non. Mais la personne doit quoi? Doit faire deux choses. La première, elle doit faire le maximum pour ne pas faire de péché exprès. On peut se tromper, faire des péchés, oublier ceci. Mais surtout, surtout, si c'est un grand péché. Surtout, surtout, je dis, si c'est un grand péché. Il faudrait que la personne, yani, fasse des efforts pour prouver qu'elle est sincère. Celui qui se laisse aller, ça veut dire qu'il n'est pas sincère, il se laisse aller, il dit moi je m'en fous. Non. Moi, je suis en train de faire des doigts, donc je dois bien me surveiller. Je dois bien me surveiller, bi'idhnillahi ta'ala, pour prouver que je suis sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala. Maintenant, Allah ta'ala ne m'a pas dit il ne faut pas te tromper. Mais, quand tu te trompes, à la rigueur, yani, fais le repentir. Sois sincère dans le repentir. Naam. Kullu bani Adam khatta wa khayru khatta'in tawwabun. Tous les êtres humains khatta'un, font des péchés. Mais les meilleurs de ces pécheurs, ce sont ceux qui font le repentir. Donc je dis à la sœur ici, Naam, même si tu fais des péchés ou là, fais le repentir après le péché. Sois sincère. Il dit à Allah Ta'ala, c'est le dernier. Je me suis trompé, c'est le dernier. Et comme ça, même si ce n'est pas le dernier, mais à chaque fois, fais le repentir et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de pardonner et fais des doigts. Si jamais ça ne marche pas les doigts, hein, ça veut dire, Incha'Allah ta'ala, que Allah ta'ala connaît tes intérêts mieux que toi. Et que dans ce stage-là, il n'y a pas beaucoup de bien, même si c'est pour toi un grand bien. Et que le mal qu'il y a est plus prépondérant que le bien qu'il y a. Et demande à Allah subhanahu wa ta'ala de t'ouvrir une autre porte s'il te ferme celle-là. Naam. Tayyib, le frère de la question présidente est là, chérie, il vous entend de l'autre salon. Ah, d'accord. Je disais que la meilleure façon de faire les doigts, c'est comme j'ai dit, de lever les mains et de faire des éloges à Allah subhanahu wa ta'ala et de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Ensuite, s'il est en face de la Qibla, les savants ont dit, c'est mieux que le fait de ne pas être en face, mais ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Naam. Et ensuite, à part que, yani, il doit manger halal et boire halal, etc. Si c'est possible, il choisit des doigts qui viennent du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si c'est possible. Naam. Maintenant, si c'est personnel, ça ne fait rien. Yani, il demande des choses personnelles. Ensuite, il choisit aussi les meilleurs moments. Comme a dit le prophète, il a dit trois moments, les doigts sont exaucés. Entre le Adhan et l'Iqama. Pendant le voyage. Et quand la pluie commence à tomber, quand la pluie tombe. ces trois moments, n'am, il faut yani, ne pas les oublier. Quand tu es en voyage, quand la pluie tombe et quand il y a le adhan, avant que la prière ne commence. Avant que la prière ne... Aussi quand la personne, par exemple, a jeûné, quand elle va yani, manger le soir. Aussi, yani, faire des doigts à une personne sans qu'elle le sache. Ça aussi, c'est accepté bi-idhnillahi ta'ala. Aussi dans la prière de la nuit. Et comme ça, ce sont, inshallah ta'ala, les meilleurs moments de l'exaucement bi-idhnillahi ta'ala. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakallahu fikoum, qu'Allah vous accorde une demeure auprès de lui et que vous fassiez partie des véridiques. Alors, question sur le cours. Une personne fait des invocations qui pour la plupart sont exaucées et elle fait aussi des rêves qui sont véridiques, c'est-à-dire les rêves sont réalisés dans la réalité, comme telle. Mais le problème, cette personne a trop peur de s'enorgueillir, donc d'avoir de l'orgueil en elle-même. Elle ne se sent pas bien car elle se dit qu'elle fait énormément de péchés. S'il vous plaît, conseillez-la car elle a peur pour ses actes d'adoration de les négliger. Pour la taouba, faut-il forcément faire deux unités de prière? Tfadal, cher.
Est-ce que tu as compris, pour que, voir si on a compris la même chose, est-ce que tu as compris que cette personne qui a dit qu'alhamdoulilah, yani elle faisait des songes véridiques et que Allah Ta'ala yani, exauce ses invocations, etc. Est-ce que tu as compris que, bon, elle a dit qu'elle avait peur de s'enorgueillir, en même temps, elle dit que yani, elle a peur de ses, pour ses actes d'adoration de les négliger. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Yani, à cause des, ça a rapport avec les doigts, l'exaucement des doigts. Qu'est-ce que tu as compris toi? Est-ce que yani, en devenant, en s'enorgueillant, yani, elle a peur de négliger? Est-ce que c'est ça, ça, sa question?
Moi j'ai compris que comme elle avait tout en fait ce qu'elle voulait, qu'elle va se lasser en fait de faire les actes d'adoration, faire la prière, etc. Car peut-être qu'elle va se dire ça sert à rien tout ça, j'ai tout ce que je veux. Non, c'est dans ce sens que j'ai compris la question. Maintenant, si c'est pas ce qu'il fallait comprendre, donc je demande à la personne qu'elle me dise en PV, Inch'Allah. Qu'est-ce qu'il fallait comprendre de sa question? Tfadal, cher. Pour l'instant, elle ne me dit rien en PV, cher. Elle ne contredit rien. Tfadal, cher.
Donc si c'est comme tu as compris, comme j'ai compris, je dois dire deux choses. La première, bon, d'abord, elle a dit, barakallahu, on n'a pas dit salam alaykoum, ça. Je dois dire deux choses. La première, bon, je lui dis, fiki barakallah. La première, c'est que quand la personne, quand une personne arrive à avoir, il y a des songes véridiques, alhamdoulillah, il y a des qui se réalisent. Et ensuite, la plupart de mes invocations exaucées, ça veut dire que, alhamdoulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait atteindre un certain degré et statut que, yani, il faut dire la vérité, ce n'est pas tout le monde qui a ce statut. Donc, je devrais quoi? Au lieu de dire, ça risque de négliger ou je ne sais pas quoi, ça devrait me pousser, m'accrocher encore. Non, c'est comme ça que je dois, ça doit être yani, ma position. Je dis maintenant que Allah subhanahu wa ta'ala m'a élevé à ce degré, que masha'Allah, chaque fois que je fais un rêve, il se réalise. La plupart du temps que j'invoque Allah subhanahu wa ta'ala m'exauce. C'est une preuve que Allah subhanahu wa ta'ala m'a aimé, que j'ai un statut masha'Allah chez lui. Je suis assez proche de lui. Non. Je me dis que je ne mérite pas et que j'ai peur de me complaire. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, yani, fait élever qui il veut et rabaisse qui il veut. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a élevé à ce statut, naam, donc au contraire, il ne faut pas dire je ne mérite pas ou je ne sais pas quoi. il faut dire ya Allah, فهمت, alhamdulillah, فهمت, alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatim salihat. Ya Allah, yani je vous remercie matin et soir pour cette grande ni'ma que vous m'avez donnée. Je vous demande de raffermir mon cœur. Comme je vous demande de ce que vous m'avez donné, à aussi à mes frères et mes soeurs, ou à mes enfants, ou là, qui n'ont pas ce statut. Yani on aime à autrui ce qu'on aime pour soi-même. Et ça doit être yani une exhortation à aller plus vers l'avant et à se rapprocher plus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et non pas le contraire, et dire donc, puisque maintenant c'est comme ça, donc je vais négliger, etc. Non, il faut enlever ces choses de la tête, inshallah ta'ala, et que, inshallah ta'ala, puisque vous avez accepté de m'élever à ce statut, moi, inshallah ta'ala, je vais faire tous mes efforts pour continuer dans ce droit chemin, bidna ta'ala, pour continuer dans ce droit chemin, pour vous ravir, et Allah subhanahu wa ta'ala, autant que je puisse, بإذن الله سبحانه وتعالى. نعم تفضل.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaykoum cheikh, qu'Allah vous guérisse et vous récompense par la meilleure des récompenses. Le shirk asrar, l'ostentation, est impardonnable par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais si on se repent du shirk asrar, le repentir est-il accepté malgré que le shirk est la plus grande des injustices? Est-ce qu'Allah fait entrer en enfer automatiquement une personne qui a commis ce péché malgré le repentir sincère? Barakallahu fikoum cheikh. Tfadal cheikh.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Je dis à la sœur, Naam, que le petit shirk, si tu le fais, comme l'ostentation, le repentir, inshallah ta'ala, quand la personne meurt, Naam, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Et ce n'est pas absolument qu'elle doit passer par l'enfer pour être pardonnée. Je dis mieux que cela, même si elle fait le grand shirk, pas le petit, et que elle fait repentir sincère, elle revient vers Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne. Sinon, écoutez, sinon, comment vont faire les bouddhistes? Comment vont faire les chrétiens qui, yani, l'islam? Toute leur vie, ils l'ont passé dans le grand shirk et le Christ. Et les autres, dans le grand shirk, en adorant les statues et les pierres et les arbres et les momies, je ne sais pas quoi. Mais, Allah Ta'ala a dit qu'il ne pardonnait pas le shirk, qu'il soit grand ou petit, pour la personne qui meurt sans avoir fait le repentir. Et non pas celui qui fait le repentir. Car le repentir détruit. Naam, ce qui l'a précédé, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahdimu maqab authentique. Naam, tfadlal. Wallahu alam. Une autre question.
Question d'une sœur. Salam alaykum. Si l'on s'est repenti d'une médisance faite à autrui, est-ce que le fait de lui donner nos bonnes actions est annulée ou pas? Et est-on pardonné si la personne que l'on a médit ne nous a pas pardonné? Barakallahu fikoum. Tfadal cheikh.
Naam. Alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. Est-ce que vous m'entendez? La première remarque. La personne, quand elle a passé le salam, voilà ce qu'elle a dit. Elle a dit salamu alayki. Salamu alayki. Vous comprenez? On dit salamu barakallahu fiki. Le i c'est pour la femme. Si on parle à un homme, on lui dit salamu alayki ou bien alayk. C'est tout. Non, si c'était une femme, on lui dit salamu alayki. Barakallahu fiki. D'ailleurs, à la fin, elle a dit barakallahu fik. Elle a dit barakallahu fik. Al-Mouim, c'est pas grave, c'est juste pour corriger certaines choses. Si on s'est repenti d'une médisance, etc. Quand on se repent d'une médisance, hein, fait partie pour que le repentir de la médisance soit accepté, de se faire pardonner. pardonner, de demander pardon à la personne. Si elle, elle veut pas pardonner, ça, c'est comme a dit Cheikh Ibn Outaymin, yawm al-qiyamah, Allah subhanahu wa ta'ala va le faire ravir, en lui montrant des choses, etc. Et sûrement qu'il acceptera. Mais il doit, pardon, sauf dans le cas ou quoi, dans le cas par exemple, où, yani, je sais que si, yani, qu'il n'a pas encore, yani, ma médisance ne lui est pas parvenue. Et maintenant, si, yani, je vais lui dire ça, je sais que je vais agrandir le problème. Je vais agrandir le problème, car je connais bien cette personne, elle va m'insulter, elle va ceci, elle va cela. Donc, autant la laisser comme ça, dans l'ignorance, elle ne sait pas ce que j'ai dit d'elle, pour au moins garder une bonne relation avec elle. Au moins, je ne perds pas une amie ou bien, yani, quelqu'un de la famille, un musulman. Pour que garder toujours la relation avec lui, même je lui dis pas. Sauf comme j'ai dit, s'il est au courant, au courant que c'est moi, yani j'ai médit de lui, je dois aller lui demander pardon. Cheikh Ibn Outaymin dit, sauf dans le cas où il sait que s'il va lui demander, yani, il se passe des choses très graves. Non. Sinon, yani, il peut écrire une lettre, ou par téléphone, ou bien SMS, ou bien. Alhamdoulilah, yani, maintenant, il y a beaucoup, inshallah ta'ala, de façons. Et à de contacter les gens. Tfadlal.
Question d'un frère. Salam alaikum. Une question pour notre cher. Si avant qu'on soit dans la religion, nous avons commis un péché, exemple vol, mensonge, etc., à une femme, est-ce que l'on doit aller s'excuser auprès de cette personne ou doit-on demander pardon à Allah? Barakallahu fikum. Fadal cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah wa barakatuh. J'ai dit tout à l'heure, si c'est par exemple un vol, ça rentre dans les conditions du repentir de rendre la chose volée à la personne qu'on a volée. Ça rentre dans la condition, ça devient une condition pour accepter le repentir, de rendre la chose volée à la personne qu'on a volée. Sauf si quoi? Sauf si, comme j'ai dit, il n'y a plus la personne qu'on a volée, je ne sais plus où elle habite, etc. Et que j'ai toujours la chose volée, dans ce cas, yani je la vends et je donne son argent, yani, au nom de la personne volée. Ah. Si c'est un mensonge qu'on a menti à une personne ou là, ça c'est trop tard. L'essentiel, je fais le repentir entre moi et Allah subhanahu wa ta'ala. Sauf si ce mensonge a un impact jusqu'à de nos jours. Supposez que, il y a une année avant de commencer la prière autrefois, j'ai menti à une personne, par exemple, que, c'est un exemple, hein, que en l'année 2015, je vais te donner, je vais te donner une partie de ma ferme, un morceau de terrain de ma ferme. C'est juste un mensonge et que la personne, jusqu'à de nos jours, elle attend. Ça, c'est un mensonge. Il faudrait que je la contacte et que je dise, excuse-moi, j'étais dans l'ignorance, je disais n'importe quoi. Et pardonne-moi, mais je n'ai ni ferme ni rien. Voilà. Là, pourquoi? Parce que le mensonge que j'ai menti est toujours en train de marcher. Et ça a un impact jusqu'à de nos jours. Sinon, j'ai menti autrefois, j'ai dit que j'habite à la rue Pompidou, alors que j'habite à la rue Mitterrand. Dans ce cas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, non, mais yani, je fais le repentir entre moi et Allah, c'est tout. Naam. Tfadlal.
Question suivante, question d'une sœur. Salam alaikum wa rahmatullah, cher. Qu'Allah vous récompense pour ce que vous faites. Voilà ma question. J'ai eu une période avec de fortes choubouhat. J'étais dans la takfiriya. Avant, mais alhamdoulilah, Allah m'a guidé dans la salafiya. Lakin, par moment, j'ai encore des choubouhat et je me sens hypocrite vis-à-vis d'Allah. Est-ce que mes adorations sont acceptées d'Allah? Si j'ai des choubouhat dans mon cœur. Et donc, c'était la dernière question pour ce soir, Inch'Allah. Tfadal, cher.
Wa alaykoum salam wa rahmatoullah d'abord pour cette sœur, que Allah subhanahu wa ta'ala, yani, l'a guidée divi l'islam de du takfir yani qui c'est à soi-même et aux gens. Ensuite, je donne des conseils à cet âme-là et à tout autre qui avait les mêmes idées ou bien qui les a toujours. Là, que les choubouhat, c'est plus difficile que les shahawat, les ambiguïtés. C'est plus difficile que les tentations. Les tentations, l'alcool, la zina, hein, tu peux arrêter. Mais les choubouhat, ce sont des choses qui viennent dans ton esprit, font des problèmes, partent, ensuite reviennent dans ton cœur, et comme ça. Les choubouhat, on les soigne avec la science, c'est tout. Il n'y a aucune chose qui peut te soigner et les enlever que la science, la vraie science, Kitab ou Sunna, à la manhaj salaf. C'est pour cela, je conseille à cette sœur et à tous les autres qui m'entendent, qui ont les mêmes idées ou les avaient, de faire des efforts, de ne jamais, jamais, jamais revenir s'asseoir ou écouter les gens des choubouhettes qui m'ont appris cette mauvaise chose. Jamais je ne reviens marche arrière, je vais dire. Je vais quand même les écouter encore un peu, essayer de débattre avec eux et faire ceci, faire cela. Jamais, jamais, jamais. Si tu veux être soigné de cette chose, il faut tourner la page et arrêter toute relation avec tous tes amis qui sont dans le même chemin. Sauf celles envers lesquelles tu sens qu'elles sont comme toi et voudraient changer. Ils savent qu'elles savent dans l'erreur et font des efforts. Celles-là, plus ou moins. Mais celles qui sont, il y en a 100% dans le tekfir, et qui font des débats pour cela, et qui écrivent, et qui y en a, font des efforts pour faire la da'wa à ce faux minhaj, ceux-là, il faut les éviter, y en a, en mettant dans entre nos yeux que c'est le plus grand mal qui puisse exister. C'est le plus grand mal qui puisse exister. Ensuite, toi, à force d'assister dans les salons de Ahl Sunna ou Jama'a, à force de lire les livres des grands savants de Ahl Sunna ou Jama'a, surtout pour ton cas, les livres de ceux qui parlent sur c'est quoi le takfir. Que disent les grands savants sur le takfir? Que disent Ahl Sunna ou Jama'a sur le takfir? Naam, comment répondre aux choubouhat des takfir? Et comme ça, Inch'Allah ta'ala, c'est comme yani, les nuages. Les nuages, vous savez, un grand nuage sur sa tête. Ensuite, c'est pas tu lèves ta tête, tu le trouves plus. Mais il commence petit à petit à se dissiper. Jusqu'à ce qu'il parte pour de bon. Quand il part pour de bon, khlas, tu lui fermes la porte, tu lui fermes ton cœur pour qu'il ne revienne plus. Et pour lui fermer la porte, ça veut dire je n'accepte aucun contact des anciennes et des anciens que je connaissais qui avaient ce minhaj. Car une seule phrase pourrait tout détruire. Et en plus de tout cela, sans oublier que la personne fasse beaucoup de doigts jour et nuit en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala de me montrer la vérité. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. وَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَرْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ. يَا اللَّهُ مُنْتَرِمُوا لَا vérité vérité et يعني aidez-moi à emprunter son chemin et montrez-moi يعني l'égarement comme égarement et aidez-moi à l'éviter et comme ça les doigts les doigts les doigts et la science بِإِذْنِ تَعَالَى et s'éloigner des anciennes connaissances qui m'ont passé le virus بِإِذْنِ تَعَالَى. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala t'aider, nous aider tous et raffermir nos cœurs dans le minhaj de Ahl Sunna wal Jama'a, le minhaj des sahaba, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de ses compagnons, tabi'in et des grands savants, bi'idhnillahi ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Rendez-vous, inshallah ta'ala, samedi, pour inshallah terminer la prédestination, le qada ou le qadar, qui est très important, et yani, N'oubliez pas d'assister samedi, car c'est très important pour le qada ou le qadar, car beaucoup de gens, jusqu'à de nos jours, ne savent pas et te disent comment yani Allah Ta'ala, c'est lui qui a écrit dans la tablette préservée que telle personne allait boire de l'alcool, que telle personne allait faire zina, que telle personne allait je ne sais pas quoi faire. Ensuite, Yom al-Qiyamah, il va me faire entrer en enfer. Alors que tout était écrit 50 000 ans avant de créer les cieux et la terre. Comment se fait-il alors après qu'il me punit et il me fait rentrer en enfer? À tout cela, inshallah ta'ala, on répondra samedi, d'ici samedi. أترككم في حفظ الله وأمانه وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.